bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ouais, pour que ça soit le plus naturel possible. Donc voilà, je crois qu'on est lancé. T'as combien de temps devant toi, là?
Le temps que tu veux.
Ok, t'as 5 heures 5-6 heures? Non, je plaisante, évidemment. Bon, et ben c'est bon, ça.
Non, pas sûr que les gens y suivent jusqu'au bout, quoi. C'est juste ça.
Ah, attention, méfie-toi. J'ai fait des épisodes qui étaient très très longs et les gens suivent jusqu'au bout. Quand je dis très long, c'est que le record est détenu par Mario Bracco de 3h30.
Oui.
Mais c'est rare, je te rassure. C'est rare. Ça n'arrive pas à chaque fois. Okay. J'avais dépassé les 3 heures avec Michael Gundil aussi, Iron Quest et évidemment Frédéric Delavier. Okay. Bon. Ceci étant dit, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique. Donc, on est parti. On va pouvoir commencer cette petite discussion aujourd'hui avec Christophe Bonnefond sur le podcast. Salut Christophe.
Salut.
Ça fait plaisir. Déjà de un, Christophe, tu as ton propre podcast que je te disais juste avant que ça serait sympa si tu le mettais sur les plateformes d'écoute, Spotify, oui. Deezer, etc. Je le dis publiquement, comme ça va te mettre une espèce de pression publique pour le faire, quoi. Parce que moi, j'aimerais bien les écouter. Parce que sur YouTube, t'es obligé de rester sur YouTube, quoi.
C'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bon. De quoi on va parler aujourd'hui? De pâte à douce, évidemment, puisque tu es un peu l'ambassadeur, le roi ultime de la farine de pâte à douce et de la pâte à douce. De compléments alimentaires, parce que tu as ta propre marque. Ton parcours, ton entraînement et des petits sujets comme ça autour de, évidemment, sport, santé, on va graviter.
Okay.
Je te laisse, je te propose de te présenter pour démarrer.
Ouais, Christophe Bonnefond, je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses, je suis plutôt un autodidacte. Voilà, aujourd'hui j'ai plusieurs sociétés, notamment dans les compléments alimentaires, j'ai des salles de sport. J'ai aussi une société spécifique à la pâte à douce et aux produits bio ou aux produits, locaux et tout ça. J'ai développé ça aussi à côté. Donc voilà, j'écris des livres, je fais des conférences, qu'est-ce que je peux dire encore? Enfin, en fait, j'ai tellement de choses. Je suis aussi dans l'immobilier, je fais aussi un peu d'immobilier. Enfin, voilà, je fais beaucoup de choses, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aussi énormément aux neurosciences.
Ouais, j'ai vu ça.
Du cerveau, voilà, donc c'est pareil, je passe des diplômes là-dedans. Enfin, bref, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je suis un vrai passionné.
Mais ça, c'est un peu plus récent, non? Les neurosciences, j'ai vu que tu t'intéresses à
ça. Oui, c'est beaucoup plus récent, ça a quelques années, ça a maintenant 6 ans.
Ok. Alors, tu as fait un... Attends, si je me suis bien renseigné, tu as un diplôme que tu as effectué.
Oui, en fait, j'ai passé des diplômes avec David Lefrançois.
Je connais pas.
Qui est un expert en neurosciences, qui a un doctorat en neurosciences et tout ça. Et, ouais. Qui fait des formations. Et donc j'ai fait sa première formation, après j'ai fait en master coach, enfin voilà quoi. Et c'est passionnant parce que le cerveau, c'est ce qui régit absolument tout dans ta vie. Et c'est souvent ce qui te fait réussir ou échouer dans tous les domaines de ta vie. Donc c'est quelque chose d'absolument passionnant, quoi. Donc voilà.
Tu l'as fait au départ plus pour ton côté entrepreneurial, un peu pour ta vie perso, ou c'était...
T'es
intéressé par point de vue santé, entraînement.
Ouais, je l'ai fait avant moi pour tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça quand j'ai commencé à être un entrepreneur et avec ma société. C'est okay. Vrai que, ouais, parce que j'ai rencontré beaucoup plus de difficultés et ça m'a énormément aidé, en fait. Et puis, évidemment, pour ma vie perso, évidemment, ça aide même à ton développement personnel et à comprendre certaines choses et à comprendre l'être humain, comment le cerveau fonctionne, etc. Et tu vois vraiment que c'est le moteur pour tout, en fait. Donc voilà.
C'est quoi le truc que tu as appris le plus important, qui t'a le plus marqué, que tu as découvert. Genre, s'il y a un élément.
En neurosciences, tu parles ?
Ouais, en neurosciences, ouais.
Que l'action est la clé pour tout avoir. En fait, le problème, c'est que notre cerveau est programmé pour être, entre guillemets, feignant, tu vois. Et le problème, c'est que bouger ses fesses, entre guillemets, c'est ce qui est presque plus dur. Et en fait, on se rend compte que quand on fait les choses, la réussite est souvent au bout des choses, quoi. Mais on s'en rend pas toujours compte. Et on repousse toujours les choses au lendemain, on retarde. Bon, et bref, et au final, tu fais jamais rien de ta vie, quoi. Moi, je connais des gens qui veulent écrire un livre. Ça fait 10 ans qu'ils sont dessus et le livre est toujours pas sorti. Et puis, c'est même pas sûr qu'un jour, ils le sortiront, mais parce qu'il y a toujours des excuses, il y a toujours des retards, des repousses, des machins. Et puis, en fait, tu fais jamais rien de ta vie, quoi.
Alors parfois aussi le fait d'avoir toujours un objectif toujours une envie de faire quelque chose et que finalement tu réalises pas, c'est une façon de pas te confronter soit à la difficulté, soit c'est le doux rêve, un jour je ferai ça, j'ai eu cette idée, ça se développera. Et puis parce que quand tu rentres en contact avec la réalité, tu prends une cartouche, quoi, souvent.
Ouais, c'est entièrement raison. Et moi je l'ai été pendant très longtemps, hein, comme ça.
Ah ouais,
des rêves, mais en fait je faisais quoi tous les jours pour atteindre mes rêves? Rien. Donc ça venait pas.
Mais là, tu parles de quel âge, là ?
Moi, j'ai ouvert ma première société, j'avais 35 ans. Donc, ça a été tardif quand même, tu vois, 35, 36 ans. Donc, ça a été un peu tardif. Et en fait, à un moment donné, j'ai été dans un tel inconfort psychologique que je me suis dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que j'étais pas épanoui, quoi. Professionnellement.
C'est ça le déclic ?
Hein ?
C'est ça le déclic que tu as eu ? C'est parce que tu étais vraiment dans l'inconfort absolu ?
Ouais.
Je sais pas si tu connais Jérémy Coron.
Oui, ça me parle, ça. Ça me parle, oui.
Mmh. Il fait un peu de neurosciences également, lui. Alors, ouais. je l'avais invité sur le podcast. Là, il était passé il y a quelques semaines. L'épisode est sorti en mai. Mais je crois, ouais. Et on parle pas mal de neurosciences. Et c'est assez intéressant. Il a son propre podcast aussi, Neuroperformer. Là, j'encourage tous ceux qui sont intéressés par tout ça à aller regarder un peu ce qu'il fait. Déjà, allez regarder l'épisode que j'ai fait avec lui. On a brassé beaucoup de choses là autour de... Comment essayer d'améliorer ses performances, optimiser ses performances mentales, physiques forcément. Enfin bon, bref, voilà. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de musculation en salle ? Première fois que tu es rentré dans une salle de sport, comment ça s'est passé ?
Alors, première fois que je suis rentré dans une salle de sport, je crois que j'avais 15 ans et on m'a interdit l'accès. Pourtant, j'avais été avec mon père. et j'étais trop jeune à l'époque. Moi, je suis vieux, j'ai 46 ans, donc c'était une époque où... Où les ados, il fallait avoir 18 ans pour faire de la muscu en fait en salle. Bon,
et c'est pas encore un peu le cas, ça.
Comment ?
C'est pas encore un peu le cas, ça.
Une autorisation parentale, il n'y a pas de souci. Hein.
Ok.
Mais à l'époque, le mec il m'avait dit non, mais je me rappelle de lui parce qu'il avait les bras très veineux, tu vois. Il était vraiment, tu vois, c'était un bodybuilder, tu vois. Il était en t-shirt, mais je voyais que ses avant-bras. Et je dis, oh la vache, tu vois. Mais je m'entraînais déjà chez moi. J'avais déjà un banc à développer couché, des haltères, tout ça. Et je me suis dit, merde, maintenant je vais aller m'entraîner en salle, tu vois. J'ai acheté Le Monde du Muscle et tout ça, tu vois. Je regardais des cassettes vidéo à l'époque. Et je me suis dit, mais merde, moi je vais aller en salle et pousser la fonte, tu vois. Et j'ai dû attendre mes 17-18 ans pour aller dans une salle. Et c'est une salle d'haltérophilie, je me rappelle. Et là, pareil, c'est un papy de 80 ans qui faisait le soulevé de terre qui m'a accueilli, tu vois. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. 80 balais, le mec, et pareil.
Et alors, comment ça s'est passé cette séance ? T'as fait quoi ? Tu te souviens l'entraînement que t'as eu ?
Il y a trop longtemps. Mais je m'entraînais déjà, hein, je te dis, ma première séance, je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. J'ai dû toucher à tout, je pense. Tu sais, comme un gamin dans un magasin de jouets, quoi.
Tu te voyais monter des salles déjà, là ? T'avais ce déclic ?
C'était un rêve. Mais à l'époque, moi, j'étais très branché à arts martiaux. Et le muscu, c'était un complément parce que moi, je suis une génération Bruce Lee, Van Damme, tu vois. Donc, c'était à la fois les arts martiaux et à la fois le côté musclé, tu vois. Bruce Lee était quand même musclé, même s'il était sec. Bon, Van Damme, lui, c'était carrément un culturiste aussi, tu vois. Donc je voulais ressembler à Cesaro ou à Stallone, tu vois. C'était toute la génération des années 80 où c'était tous les acteurs, c'était tous des super-héros, tu vois. Avec un physique hors norme aujourd'hui, t'en as quasiment plus à part Dwayne Johnson ou comme ça, mais... Franchement, la physique d'aujourd'hui, c'est plus l'époque de Schwarzy, Stallone et tout ça, tu vois, ou Van Damme.
Et alors, c'est assez bizarre quand même quand on y pense, parce qu'il y a peut-être moins de physiques d'acteurs qui sont énormes, mais par contre, il y a de plus en plus de comptes sur Instagram d'influenceurs fitness qui sont de plus en plus gros. Alors, la culture populaire, d'un côté, sur les réseaux, elle est beaucoup plus au physique gros et athlétique, et par contre, les acteurs, peut-être un peu moins. Et ouais. C'est plus les transformations, peut-être, maintenant, pour les acteurs qui sont mis en avant.
Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi cette tendance, je sais pas trop, ouais. Mais après, les réseaux, ça a changé la donne de tellement de choses que... Là, en 10 ans, les réseaux sociaux ont tout changé, quoi.
Ouais. Toi, tu l'as vu... Il y a un truc qu'on dit souvent, là, c'est qu'il faut que tu aies des photos où tu te mettes en avant, torse nu, il faut que tu fasses des doubles biceps, etc., pour avoir le plus de likes. Et puis, pour regarder un peu ton compte Instagram, en fait, toi, tu mises pas tant dessus, quoi. Tu te mets pas
Pose. Tu sais, quand je remets une photo de moi, torse nu ou machin, les likes, ils explosent, tu vois. C'est fou, hein. Ou les commentaires explosent. Et ouais, mais c'est comme ça, écoute. C'est l'être humain.
Pourquoi t'en fais pas plus, alors ? Par exemple.
Mais parce que je suis plus dans cette quête physique. En fait, c'est ma personnalité, tu vois. Je suis plus dans cette quête physique presque égocentrique, tu vois.
Mais ne serait-ce que pour attirer, par exemple, le clic, pour attirer les vues, pour ensuite peut-être diriger ou faire passer tes messages sur tes compléments.
Ouais, j'entends bien, mais comme psychologiquement, je suis plus dans cet état égocentrique à me montrer à tout prix, tu vois. Mmh. Je le fais de temps en temps, tu vois, mais c'est vraiment épisodique, quoi. Donc, parce que c'est pas dans mon état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un de très naturel, de très vrai. Et c'est vrai que je fais tu vois, je raconte tout le temps en story. Si vous regardez mon compte Instagram, t'as pas une journée, je raconte pas je mets pas un truc rigolo ou un truc comme ça, mais c'est ma personnalité, tu vois. Des fois, je mets des trucs même un peu osés, tu vois. Et, mais quel patron ferait ça aujourd'hui, tu vois? Personne fait ça, mais moi, je m'en fous, en fait. Parce que c'est ma personnalité, je suis heureux comme ça. Et en fait, mon bonheur passe avant tout, quoi. Je perds sûrement des fois, tu vois, je dois perdre des abonnés parce que tu vois, je fais des blagues de cul comme ça. Je dois perdre des gens que ça va choquer. Mais en fait, je m'en fous parce que moi, je suis heureux parce que je me marre, tu vois. Et, et voilà, c'est ma personnalité. Et on m'accepte comme je suis, on m'accepte pas. Si on m'accepte pas, c'est pas grave. Mais moi, je suis heureux comme ça et ça passe avant tout, en fait. Voilà.
T'as déjà reçu des messages de personnes qui disaient ouais, c'est pas sérieux de communiquer comme ça. Vraiment des mecs qui, en dehors de perdre des abonnés, les mecs qui te le verbalisaient directement.
Ouais, j'en ai eu un il y a pas longtemps que j'ai affiché d'ailleurs. Et après, ça reste quand même relativement rare, mais ça arrive de temps en temps, ouais. Après, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça, quoi. Tu vois, l'être humain, il a envie de plaire à tout le monde, c'est impossible, quoi. C'est impossible, tu vois. Donc, il faut se faire une raison, hein. On plaît pas à tout le monde, voilà. Après, moi, j'ai ma personnalité. Il y en a qui vont aimer ce que je fais, il y en a qui ça les fait rire, donc ça va pas les faire rire, bah ils vont zapper et puis voilà, c'est comme ça.
Mais il te dit quoi le mec en question, en fait? Qu'est-ce qu'il te reproche au juste?
Oh, je me rappelle plus. Il m'a dit ouais, t'as des vannes de plus en plus nulles, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Ouais, t'as un truc comme ça, tu vois. Et en plus, il est rentré sur ma vie privée. Et je lui ai fait une réponse vraiment salée. Vraiment salée. Et voilà, bon. Généralement, je réponds pas, mais là, je sais pas pourquoi, il m'avait titillé sur ma vie privée. Et je lui dis, mais mec, désabonne-toi et va ailleurs, quoi. Tu vois.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y a
bien répondu, méchant, un peu méchant.
Ok, moi j'ai bien aimé là, un de tes derniers posts. Je crois que c'est sur Instagram. Ouais. Sur le virilis, où il y a une jolie citation de Rocco Siffredi. On va pas la dire, tu vois. Ceux qui l'ont pas vu, ils vont aller sur l'Insta, sur ton Instagram, Christophe Bonnefond, et puis ils vont aller regarder. Je l'ai pas découvert là-dessus, mais on va dire j'ai redécouvert cette citation sur ce post. Voilà, c'est assez drôle.
Bon, tu vois, c'est mon côté déconneur, tu vois. Vas-y.
Non, c'est juste que en fait, je m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est quand même marrant pour la prolongation. Et je trouve ça, moi, je suis pas du tout choqué. Et je trouve ça, si tu veux, j'ai pas du tout de trucs politiquement corrects ou quoi. Surtout que tu fais de mal à personne, en fait. C'est voilà, ceux qui sont prudes, bon, ben, ils se désabonnent. Je vois pas l'idée, mais je me suis dit, c'est quand même marrant de mettre ça pour faire la promotion d'un produit. Alors que, on va dire que normalement, quand tu fais la promo, tu fais quelque chose de sérieux, tu vois, tu montes les bénéfices, il faut que ça soit sérieux, attends, on déconne pas ici. Toi, tu mets cette phrase, et je me suis dit, tiens, c'est à la fois culotté, et j'ai trouvé ça drôle. Et tes vidéos promotionnelles que t'as un peu sur ta chaîne YouTube aussi, qui présentent certains de tes produits, comme par exemple le collagène, je m'attendais à une connerie quand la caméra elle recule. Je m'attendais à une connerie, mais je ne m'attendais pas au grand écart.
Ouais, mais des fois, j'ai des idées comme ça. Mais parce que la vie, elle est... Enfin, c'est con, hein, ce que je veux dire. C'est hyper bateau. Mais la vie, elle est courte. Et voilà, il faut... Moi, je te dis, j'aime tellement rigoler. Pour moi, rigoler, c'est une valeur de la vie, tu vois. Et je me dis, même par respect aux gens, il faut que les gens qui regardent mon Instagram, ils se marrent. Il faut qu'ils aient des émotions, tu vois. Et il n'y a rien de plus chiant. Il y en a plein, hein, d'autres marques ou quoi que ce soit. Mais c'est chiant, putain. C'est super chiant. Et moi, j'ai pas envie d'être chiant, en fait, tu vois. Et voilà, quoi. Mm. C'est moi.
Bon, ben, je pense que les gens, ils t'apprécient comme ça aussi.
Aussi, donc voilà.
Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, comment tu découvres la patate douce? Je ne sais pas si peut-être on te l'a déjà posé cette question, mais moi, je n'ai pas la réponse.
Alors, ouais, c'est simple. C'est à un moment donné, bah, avec Julien Ménesson, justement, on avait sorti les livres sur le paléo, tu sais. Et c'est vrai qu'un des féculents, ouais, qui revenait tout le temps, c'était la patate douce. Tu vois. Et quand j'ai sorti ma marque de complément, j'ai cherché en fait je voulais faire un gainer, mais un gainer sain. Et je savais que la farine de patate douce, ça existait sur des îles. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de faire un gainer, mais au lieu de mettre de la maltodextrine et du sucre ou du dextrose que dans la plupart des gainers, tu vois, je me suis dit, ça serait pas mal de faire un mélange de patate douce en poudre avec de la whey protéine. Tu vois, je cherchais à faire un truc comme ça. Et avec mon labo, ben, je lui ai dit, ouais, est-ce que vous pouvez commencer à chercher pour trouver, pour faire un gainer à base de farine de patate douce et tout ça. Et puis, on a commencé à chercher, on a commencé à regarder les producteurs, les machins. Et puis, on a commencé à faire des tests. Et puis, des fois, c'était concluant, des fois, c'était pas concluant. Et puis un jour, il me restait un sachet de farine quand je faisais les tests. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais mélanger ça avec des œufs et voir si j'arrive à faire une crêpe avec, tu vois. Mais vraiment au hasard, quoi. Il m'en restait, je crois, 70 grammes. Puis je mélange ça avec des œufs. Et puis je me fais une crêpe. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est trop bon. C'est trop bon. En fait, je vais même pas sortir le gainer. Je vais juste sortir la farine de patate douce comme ça. Juste pour faire des crêpes pour le petit-déj, tu vois. Et puis c'est sorti comme ça. J'ai pas fait de pub payante, chose comme ça. En fait, ce sont les gens. En fait, j'ai publié ma crêpe. Ils m'ont dit, ah, c'est trop bien, je vais tester. Qui ont commencé à acheter quelques pots, tu vois. Et eux-mêmes, ils ont adoré, ils ont reposté en fait les crêpes à la farine de patate douce. Et en fait, ça a été viral, le truc. J'ai commencé à faire le buzz. Alors, je ne faisais pas de pub payante ou de promotion, tu vois. Ça a été complètement viral. Tel point viral qu'à un moment donné, j'avais tellement de demandes. Je recevais, par exemple, 2 palettes de farine de patate douce, par exemple, l'après-midi à 14h. À 16h, j'avais plus rien. Les gens, à 20h, m'insultaient quand ils travaillaient du travail parce qu'ils n'avaient déjà plus. Ils m'insultaient, les gens. T'imagines? Et c'est venu viral. Bon, après, on m'a copié 50 000 fois. Mais la première année, c'était un truc de fou. Et voilà, quoi. Voilà comment ça a démarré.
Et comment ça a communiqué? Si toi, tu n'as fait pas de pub, c'est les gens, ils se l'envoyaient entre eux? C'était sur les réseaux?
C'est la magie d'Internet. C'est que mes propres clients me faisaient la pub, en fait. C'est ça qui était ouf. C'est que j'ai rien fait, j'ai rien demandé. Et les gens, en fait, ils ont tellement kiffé qu'ils repartageaient. En disant, ben voilà, je consomme la farine de patate douce, c'est un nouveau truc. Et puis, ben, les gens avront et tout, ils t'achètent ça où? Chez lui, chez Chris, machin. Et ça s'est fait tout seul, comme ça. Incroyable.
Incroyable. Okay. Et attends, tu me disais là tout à l'heure que c'était avec les laboratoires que tu avais essayé de trouver, de développer un truc, ouais. Et que tu étais tombé là-dessus. Ça veut dire que tu avais déjà ta marque de complément.
Oui.
Tu avais déjà lancé quelque chose, quoi.
Oui, j'avais déjà ma marque de complément. Et j'ai lancé ça peut-être 6 mois, 1 an, quoi. Après. Parce que je cherchais à faire des nouveaux compléments, en fait.
Ok, et ça a de suite cartonné. Et puis ensuite, t'es devenu un peu l'égérie, quoi.
Ouais, c'est venu très très vite. Et voilà, et puis j'écoule des tonnes et des tonnes et des dizaines de tonnes de farine de patate douce, quoi. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est une quantité astronomique. Voilà.
C'est ça que les gens t'achètent le plus?
Ouais. C'est... Bon, maintenant, il y a d'autres produits qui sont en train de sortir du lot, mais la farine de patate douce, pendant longtemps, c'était 50% des ventes. Hein. J'avais pas un colis sans farine parce que les gens prennent ça au petit déjeuner ou en collation, tu vois. Donc tous les jours.
Et pourquoi la farine de patate douce au départ, tu sais que, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? À part le goût et le fait que tu as trouvé que c'était. Tu t'es dit putain, c'est génial. L'idée de prendre la patate douce, c'est parce que tu savais qu'il y avait des bons ingrédients.
Oui. Des bonnes vertus, des bons bénéfices.
Ouais, voilà.
Ça avait tout en fait, ça avait. Un index glycémique qui était plutôt modéré, donc tu vois, même les diabétiques peuvent en consommer, par exemple, tu vois. c'est sans gluten, donc ça c'est pareil. Tous les gens qui ont des problèmes avec le gluten, ben voilà, c'est riche en fibres, enfin bon, il est bourré d'antioxydants, enfin, il y a plein de vertus qui sont intéressantes si tu veux, tu vois. Et voilà, je te dis dans le régime paléo, parce qu'à l'époque j'étais assez branché paléo, c'était vraiment l'aliment presque de base, tu vois. Et voilà, et puis bon, en plus le goût il est excellent, tu vois, quand tu prends les bonnes variétés de patates douces et tout. Donc voilà. Voilà comment
c'est considéré comme un légume ?
Non, c'est une tubercule. Alors c'est pas la même famille que la pomme de terre, mais c'est un cousin, quoi, une cousine.
D'accord. Et toi, t'en manges ? Alors tes repas là, est-ce que tu manges que de la patate douce ou tu varies ?
Non, parce que je suis plus du tout un régime paléo. Tu vois, j'ai beaucoup évolué en nutrition et je suis plus dans ce truc paléo, même si mon alimentation. Enfin, le régime paléo, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le régime paléo. Ils pensent qu'il n'y a qu'un type de régime paléo, alors que le régime paléo, en fait, ça dépendait où vivaient les hommes, tu vois. C'est-à-dire que les hommes qui vivaient dans la savane n'avaient pas le même régime alimentaire que ceux qui vivaient en Europe ou carrément sur la banquise. Enfin, tu vois, ça dépendait de l'environnement. Le seul truc qu'il faut retenir du régime paléo, c'est quoi ? C'est une alimentation qui est assez peu transformée ou que l'homme n'a pas trop modifié, en fait, tu vois. Donc c'est surtout ça le régime paléo. Il y a rien d'exceptionnel en fait dans un régime paléo. Mais encore une fois, suivant où vivait l'homme, et ben il avait un régime plus ou moins avec des fruits ou des légumes, plus ou moins carné. Enfin tu vois, ça dépendait de ça en vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
si t'es dans la savane, tu manges pas de poisson.
Ouais, exactement. Donc encore une fois, on n'a pas qu'un type de régime paléo. Maintenant, on est au 21e siècle. Il y a quand même des choses que l'homme a créées qui sont pas si mal que ça au final, tu vois. Donc je suis plus dans un truc où je m'enferme dans un régime alimentaire spécifique, tu vois. Donc j'ai beaucoup évolué par rapport à ça.
Mais t'as un exemple précis parce que là, ok, l'homme il a fait des choses. Manger brut, manger bio, enfin le plus proche de, enfin le moins transformé, ça c'est, on est tous d'accord pour dire que c'est une base. Mais sur quoi t'as transitionné concrètement, par exemple, parce que t'as des aliments que t'as réintégrés que tu mangeais pas avant, ou au contraire que t'as enlevé du paléo parce que t'avais
plus. Les produits laitiers, j'ai intégré par exemple. Les produits laitiers.
Ouais. Il y a une raison.
Après, je peux pas trop spoiler parce que il y a un livre que je sors bientôt avec Vassilis Liopoulos,
qui va bientôt avoir
pour le lait. Et Vassilis a fait un travail de psychopathe là-dessus, et sur le lait, et on démonte beaucoup de mythes sur le lait. Parce qu'il a été, peut-être à l'excès promotionné par l'industrie laitière. Ensuite, il a été diabolisé totalement. Et en fait, nous, on a voulu reprendre toutes les études sur le sujet, et on a voulu vraiment chercher le plus profondément possible. Et je pense que le lait, sans spoiler trop, le lait peut être extrêmement intéressant pour plein de vertus. Voilà. Donc le lait, par exemple, est un des aliments. Enfin, quand j'ai le lait et tous ses dérivés, hein, que ce soit le fromage, que ce soit enfin, tout ça, pareil, quand c'est le moins transformé possible, parce qu'aujourd'hui, il y a des préparations laitières où ils mélangent tout n'importe quoi avec le lait, mais le produit laitier en lui-même est un produit qui peut être extrêmement intéressant.
Et si je te dis, comme l'argumentaire classique, ouais, mais le lait de vache, c'est fait pour les veaux.
Ouais, et le lait d'amande, c'est pour quoi ? Ou le lait de noisette, c'est pour quoi ? C'est pour les écureuils ?
C'est pour les bébés. Hein.
Non, mais en réalité, ça veut rien dire. L'homme s'est toujours adapté à son environnement, tu vois. Et j'ai lu un livre il y a pas longtemps d'un Canadien d'ailleurs sur la génétique. Et en fait, il a repéré en fait l'endroit où l'homme a eu des gènes qui sont adaptés par rapport au lactose notamment et au lait, tu vois. Et c'est passionnant. Et en fait, l'homme, tu te rends compte qu'il s'adapte en fait. Il s'adapte à digérer le lait même après l'allaitement, etc. Et en fait, c'est une question d'adaptation. Et l'homme s'est toujours adapté, tu vois. Et notre corps a une capacité d'adapter. Alors, ça prend du temps, ça prend des générations, tu vois. Mais malgré tout, l'être humain s'adapte. Alors, on sait que les populations africaines, les peaux noires, on digère beaucoup plus mal le lait. Mais encore, ça dépend de quel coin. Parce que tu prends en Afrique de l'Est, par exemple, où les Maasai, et ben les Maasai consomment beaucoup de lait. Tu vois. Bon, bref, enfin, t'as plein de choses comme ça. Et ils se portent extrêmement bien. Hein.
Ok, c'est intéressant. Et alors, pour juste rebondir sur ça, on va pas. C'est comme ça, on met l'eau à la bouche. On met le lait à la bouche de tous ceux qui vont vouloir aller acheter le livre quand il va sortir. Mais petite question perso quand même. Un journaliste indépendant, on va dire ça comme ça, avec qui tu as travaillé dans le passé, avec qui tu as fait des livres par exemple, je sais que actuellement, pour l'avoir reçu sur le podcast ici, Julien, de son prénom, je vais pas parler pour lui, mais quand j'avais discuté avec lui des produits laitiers, par exemple, il y avait un truc qui revenait, c'était l'enzyme qui te sert à digérer le lait, qui est donc la lactase,
oui, je crois. C'est ça.
Lactase. Et qui, en fait, lorsque tant que tu consommes du lait, tu as toujours cette enzyme qui est présente. C'est ce qu'il m'expliquait. Et qu'à partir du moment où tu commençais à arrêter de consommer le lait, cette enzyme disparaissait. Donc, tu perdais la capacité à digérer convenablement le lait et que tu ne la récupérais pas.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Ok. Non, mais c'est ça que c'est intéressant.
Moi, par exemple, tu vois, j'ai arrêté le lait pendant un moment quand je faisais régime paléo. Et je l'ai réintroduit. Et pas de souci.
Il n'y a aucun problème.
Non, aucun souci. Donc déjà, bon, sur moi-même, après, ça peut être juste une anecdote personnelle, tu vois. Donc, est-ce que ça a une valeur scientifique? Non, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, en fait. Il y a d'autres facteurs pour pouvoir digérer le lait. Il y a d'autres facteurs que juste parce que tu arrêtes, tu ne produis plus lactase et tu ne peux plus en reproduire, tu vois. Bon, maintenant, est-ce que dans la population actuelle, de plus en plus maintenant, il y a des gens qui ne veulent plus du tout consommer le lait. Mais on a une méthodologie, dans le livre où on t'explique que quand t'es intolérant au lactose, parce que ça, le lactose, enfin, en fait, ton corps n'arrive pas à le digérer parce qu'il produit plus de lactase, nous, on a une méthodologie pour pouvoir redigérer, en fait, le lactose.
Ok, voilà. Bon, là, ça, pour le coup, ça donne envie de savoir ce que c'est. On va pas révéler, alors, on va dire.
Après, encore une fois, je suis plus du tout dans les dogme, comme j'ai pu avant, il faut plus consommer tel ou tel produit. Franchement, je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Je pense qu'on peut consommer quasiment un peu de tout. Alors bien sûr, il y a des trucs qui sont plus ou moins bénéfiques, ça on le sait, tu vois. Donc il faut quand même faire attention. Mais je suis plus dans pour interdire un aliment précisément, tu vois.
D'accord.
Voilà.
Bon, on va continuer à discuter un petit peu de tout ça là, parce que j'ai des petites questions aussi sur des produits que tu as dans ta marque de compléments. Juste pour clôturer là-dessus, il sort quand le livre?
Il est prévu pour septembre. En fait, je vais vous dire la vérité, en fait, il était prêt, il devait sortir là, il devait même sortir pour le salon, ça a été annulé à cause du Covid. Mais en fait, l'éditeur a trouvé le livre un petit peu trop compliqué, du moins quelques passages un peu trop compliqués pour les gens lambda.
Ouais. Ouais.
Du coup, l'éditeur nous a indiqué en fait tous les passages qu'il trouvait un peu complexes pour qu'on les vulgarise beaucoup plus pour que ce soit accessible au plus grand public en fait.
Ok, bon, septembre.
C'est très scientifique. Tu penses bien qu'un livre comme ça, on nous attend. Donc, on nous attend pour nous défoncer derrière. Ouais. Donc, il fallait que ça soit ultra, ultra précis, technique et que l'argumentaire soit là d'un point de vue scientifique, je parle.
T'as peur tu t'imagines que ça va faire un tollé quand ça va sortir?
Ça va faire le buzz, tu veux dire? Bah, un tollé.
Ouais, un tollé, positif ou négatif, mais que ça va faire parler, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr. Bah, on le sait. Hein. C'est pour ça que l'éditeur a signé tout de suite. Hein. D'ailleurs.
Ouais.
Il dirait oui, on prend.
Ok, donc bon, alors s'il sort autour de septembre, c'est quoi? C'est bien parce que je pense que ce podcast, l'épisode là qu'on enregistre, il sortira au cours de l'été.
D'accord.
Entre août, septembre, quelque chose comme ça, donc ça va tomber parfaitement.
Il s'appellera Les Anges ou Démons, je crois. Voilà. Écrémez vos préjugés. Voilà.
c'est qui qui a trouvé ce titre? Est-ce que c'est l'éditeur ou c'est vous?
Le titre, je crois que c'est moi, et Écrémez vos préjugés, je crois que c'est l'éditeur. je crois, mais j'ai un doute, mais je crois.
c'est drôle. Est-ce que tu fais toujours de la préparation physique, du coaching? Tu continues là ou pas du tout ça?
Plus du tout. Plus du tout parce que.
T'as plus le temps.
J'ai plus du tout le temps et j'ai plus la tête à ça en vrai parce que suivre des athlètes, j'étais passionné par ça, mais d'un point de vue psychologique, c'est très épuisant. Donc non, je fais plus. Ouais.
Bon, alors tu découvres le bodybuilding là, enfin le vrai bodybuilding là autour de un peu avant 18 ans, tu démarres là-dessus, enfin la musculation, on va dire, t'es chez toi, ensuite t'es en salle.
Oui.
T'as eu ton parcours de bodybuilder?
À 13 ans, je commence chez moi la musculation.
À 13 ans, putain, t'as démarré tôt quand même, hein. Tu t'as construit une bonne base quoi.
Ça fait 32 ans maintenant que j'en fais. Pas de rien.
T'as fait des compètes, t'as fait. Tu voulais être pro, tu voulais aller à l'Olympia, c'était quoi?
Non. Alors, déjà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux à la base, hein, où j'ai fait beaucoup de compétitions, j'étais champion du monde, j'étais champion de France, champion d'Europe. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de. Enfin, les arts martiaux, c'était vraiment ma passion première. Et en parallèle, je fais de la musculation. Et je me suis toujours dit, quand j'arrêterai les compétitions dans les arts martiaux, je me mettrai à fond dans le bodybuilding pour pouvoir faire des compétitions et tout ça. C'était ma deuxième passion. Donc, comme à 27 ans, 28 ans, j'avais arrêté mes compétitions en arts martiaux, j'ai continué la musculation, mais vraiment dans une optique de compétition, de bodybuilding. Tu vois, et j'ai fait ma première compétition à 32 ans, où j'étais vice-champion de France.
C'est tard. L'année
d'après, j'étais champion de France, IBB. Voilà. À 33 ans.
Ok, bah c'est vachement tard, hein, parce que maintenant, oui. La compétition, on recommande surtout de commencer autour de la vingtaine quand tu es censé avoir le plus d'hormones anabolisantes.
Et très vite, on a tous des rêves, machin, mais après, j'étais quand même objectif par rapport à ma génétique, tu vois, et je me suis dit, je ne pourrais jamais rivaliser contre des personnes qui ont une génétique incroyable, et puis après, tu as le problème du dopage aussi, tu vois. Donc, dans le bodybuilding de compétition, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de dopage. Alors, je sais qu'il y a quelques fédérations, enfin, il n'y en a qu'une, une ou deux qui sont entre guillemets naturelles, mais même dans ces fédérations naturelles, malheureusement, tu as aussi des athlètes qui sont dopés qui passent à travers les mailles, tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué et c'est un cercle vicieux. Et je me suis dit, non, je peux pas. Ma santé, elle est aussi importante. Et quand je vois des monstres, machin, tu dis, c'est pas possible. Enfin, tu vois, se doper à l'année, enfin. Pendant des années, c'était pas non plus dans mon. Ça allait à l'encontre aussi de mon hygiène de vie et tout ça, tu vois, malgré tout, tu vois. Donc j'en ai fait pendant 10 ans. 10 ans de compétition quand même, hein, c'est long. J'ai fait vraiment le tour du truc, mais tout de suite, j'ai vu même en international, j'ai vu la génétique des gens, j'ai vu la forme du muscle. Enfin, tu vois, puis j'étais préparateur en même temps, donc j'ai vu que. J'ai vraiment vu que la génétique, en fait, dans le bodybuilding, c'était primordial, quoi. Donc, voilà, je me suis fait plaisir et puis je suis passé à autre chose.
T'as essayé les produits?
Oui.
Ok.
Oui, après, c'est un sujet, malheureusement, qui est très tabou en France, tu sais, parce qu'on ne peut pas trop en parler. Bon, moi, c'est fini pour longtemps, mais voilà. C'est un cercle vicieux, hein, parce qu'on se sent un peu Superman, tu vois, malgré tout. Et puis, quand t'arrêtes, bah, tu es un être normal, hein. Tu vois, il n'y a pas de mythologie.
Garde pas.
Non, on garde rien.
T'as pas gardé du tout?
Mais non, mais
garde rien, toi.
Mais c'est un mythe. Je sais qu'il y en a, dont Julien, qui disent non, mais on garde après, mais il a jamais essayé, donc il peut pas savoir. Je vous dis que quand je vous dis qu'on garde rien, on garde rien. La nature reprend ses droits, hein, tout simplement. Et si on gagne, c'est tellement infime. Et si on a des restes, c'est tellement infime, c'est ridicule en vrai.
C'est bon, tu connais Jean-Ange, le musclé?
Oui.
Évidemment.
Oui.
Parce que lui, quand je discutais avec lui, c'était l'épisode je sais pas combien, il était ici sur le podcast. Il me disait justement qu'il avait gardé beaucoup, quoi, qu'il avait réussi, enfin beaucoup, j'exagère un peu, mais qu'il avait réussi à garder, quoi, parce que il avait continué à s'entraîner, il avait continué à s'arracher, etc., et qu'il avait quand même réussi à garder ses gains. Là où moi j'étais étonné, dans le sens où c'est vrai qu'a priori je me dis c'est un peu comme c'est un surplus, et une fois que tu utilises plus le on va dire la physiologie interne pour garder ce surplus, le corps s'en débarrasse. Alors, il y en a certains qui disent qu'ils ont gardé. C'est pour ça que c'est curieux.
Ouais. Il faut savoir que Jean-Hanche, avant qu'il se dope, il avait déjà un bon physique. Hein. Sauf qu'il n'était pas sec. Et tu sais très bien que quand tu es sec, bah, tu as l'impression de faire le double torse nu, tu vois. Donc, je pense qu'il a surtout conservé ses acquis qu'il avait fait avant le dopage, quoi. Tu vois, et comme il avait plus de maturité, après, il ne faut pas oublier une chose, hein. Il a plus de maturité, plus d'expérience. Plus d'expérience en nutrition, plus d'expérience en entraînement. Donc forcément, il a, si tu veux, il a continué à progresser, enfin à progresser. Il a perdu du volume, mais malgré tout, il s'en sort avec un super physique naturel, quoi. Alors, est-ce que ça vient de ces années de dopage? Je sais pas, en fait. On peut se poser la question. Peut-être qu'il y en a un peu, tu vois. Peut-être qu'il y en a un peu aussi, tu vois. Je pense que c'est entre les deux, en vrai, tu vois.
Mais combien, qu'est-ce que tu fais derrière,
après il y a peut-être un facteur génétique aussi, tu vois. Enfin, tu vois, c'est très vaste en fait comme sujet. Mais combien, tu vois, moi j'ai revu des champions Olympia, donc les mecs qui faisaient 130 kilos sur scène. Moi j'ai vu Kevin Lebron à côté de moi, et c'est mon gabarit, quoi. Kevin Levron, le mec qui faisait 130 kilos, c'est une machine de guerre. Il est venu bouffer des crêpes à mon stand il y a deux ans là au salon. Le mec, il fait mon poids, il fait 90 kilos, 1m80. À côté de moi, même moi, je faisais plus balèze. Et pourtant, il se re-entraînait naturellement là. Donc, je veux bien, tu vois, mais à son niveau de dopage, en plus, alors lui, ça rigolait pas, tu vois. C'est pas les petits dopages comme c'est dopé comme Jean-Ange. Hein, je pense que Jean-Ange, c'était très léger. Mais donc, t'imagines quand t'as des gars comme ça qui sont chargés pendant des années à des dosages de cheval, ils redeviennent comme moi. Moi, je veux bien, mais ils sont où les restes, là? Tu vois? Moi, je veux bien, mais ils sont où réellement les restes, tu vois? Tu te poses quand même des questions. Moi, je l'ai vu sur moi aussi, tu vois? Je suis redevenu normal, comme j'étais avant. Tu vois?
Donc, t'as eu aucun problème?
Mais à bien manger, donc je garde des acquis. Mais c'est des acquis d'avant, c'est pas des acquis du haut dopage.
Tu vois? Et t'as eu aucun souci de santé, toi, pendant ou après?
Non, parce que j'ai toujours été light. Tu vois? C'était vraiment le petit plus pour la compète. Parce que je savais, j'avais aucune chance sinon, tu vois? Faut être honnête, ouais. C'est comme ça, tout le monde se dope, donc tu fais quoi? Tu leur as de passer et puis toi tu es dernier, parce que c'est ça en fait. Tu peux pas, tu es obligé d'avoir la petite cerise sur le gâteau qui fait que bah, tu es un peu plus dense, tu vois. Après, moi j'ai toujours eu peur de ça, donc j'ai fait attention, tu vois. Okay. Et puis pas toute l'année, enfin tu vois, voilà, c'était par épisode.
Et quand tu décides d'arrêter complètement, enfin ça c'est terminé, t'as une perte de motivation, t'as senti. Que tu n'avais plus le feu intérieur? C'est souvent ce qui a l'air de se passer.
Alors.
Bah c'est plus pareil, quoi. Que c'est plus pareil.
Oui et non. Même, ouais, oui et non. Oui et non. En fait, je pense que ce que tu perds, en fait, c'est l'objectif du compétiteur. Tu sais, c'est comme les footeux qui prennent 10 kilos après leur carrière parce qu'en fait, ils ne font plus de matchs. Ils n'ont plus l'adrénaline de la compète, tu vois. Donc, ils bouffent, ils font moins de sport parce qu'ils n'ont plus cette motivation de compétition. Tu vois, je pense que c'est plus ça. Tu vois. Après, moi, je suis rentré dans une optique. Je dis, OK. Moi, tu sais, j'adore avoir plusieurs vies dans ma vie. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait 10 ans de compétition. C'était une partie de ma vie. J'ai kiffé de faire ça. Maintenant, je passe dans une autre vie et je vais m'éclater dans autre chose, tu vois. Et je me suis dit, mon corps, maintenant, ça va être, je vais faire ça pour ma santé, pour mon entretien, pour garder quand même un certain physique. Tu vois, parce que, voilà, je vais quand même m'entretenir. Mais voilà, ça reste du plaisir, ça reste de la santé, ça reste de l'entretien, entre guillemets, même si des fois, Enfin, franchement, non. Je dis des fois même pour progresser, mais je ne progresse plus là. Mais parce que je ne me donne plus les moyens. Je ne mange plus autant qu'avant. Je fais 3 repas par jour. Je devrais en refaire peut-être 4 ou 5. Enfin, tu vois. Et m'entraîner régulièrement, que je ne fais plus. Tu as encore la semaine dernière, je me suis entraîné pendant une semaine, bordel. Tu vois. Mais bon, donc forcément, j'ai les résultats que je mérite. Hein, tu vois. Mais c'est vrai que si demain, je me remets à fond pendant 3 mois, je sais que je peux re-avoir quand même un physique vraiment, vraiment sympa, quoi. Plus de culturiste comme avant, mais vraiment sympa, en tout cas.
Et donc, tu arrêtes les compétitions à quoi, 35 ou au moment où tu
ma dernière compétition, je l'ai faite à 40 ou 41. J'ai fait un comeback pour mes 40 ans.
Ok, comme Kevin Levron, finalement.
J'ai eu le meilleur physique de ma vie, d'ailleurs. Comme quoi?
Ouais.
Avec l'expérience, tu l'expliques. Ouais, l'expérience, ça fait tout.
L'expérience. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est 35 ans où tu crées ta première marque de compléments alimentaires, c'est ça? Donc en fait, ça se chevauche.
Ma marque, elle n'est pas aussi vieille que ça. À 35 ans, j'ai créé ma première société où je monte mon premier magasin de compléments alimentaires.
Alors attends, 35 ans, tu en as combien? 45 là, tu m'as dit tout à l'heure? 46, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans encore, il y avait. Les gens allaient dans des magasins, c'est pour ça. Moi, je veux faire la transition sur ça parce que il y a 10 ans, peut-être, c'était moins développé la Amazon. Bon, après, il y a eu le coronavirus qui est venu, donc ça a tout encore plus digitalisé, surtout la livraison des produits. Mais il y a 10 ans, on se déplaçait pour les courses, on se déplaçait dans les magasins. Pourquoi une boutique de compléments alimentaires? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas je sais pas moi.
Parce qu'à l'époque, j'avais un ami à moi qui avait un magasin qui était l'autre côté de Nice, qui était voilà, il marchait bien. Il m'a dit tu devrais faire ça et tout. Moi, en plus, ma passion, c'est la nutrition et tout ça, tout ce qui tournait autour de ça. Donc, je travaillais à Monaco, tu vois. Et je me suis dit tiens, bon, c'est le moment de me lancer. J'avais un peu d'économie. Je me suis dit allez, je me lance, tu vois. Et puis c'est parti comme ça. Mais c'est vrai que l'internet commence à se développer. Mais en fait, les gens, ils aiment le contact, ils aiment les conseils, malgré tout, tu vois. Les gens de proximité, je parle. Et malgré tout, tu vois, bon, maintenant, moi, mon chiffre d'affaires, c'est 95% de mon chiffre d'affaires se fait sur Internet. Hein. 95, c'est la folie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne ferme pas mes salles et mes magasins, c'est simplement parce que j'ai de la famille et des amis qui travaillent dedans, tu vois, pour dire la vérité, tu vois. Mais moi, tout mon business se fait sur Internet maintenant. Donc moi, j'ai vraiment fait la transition, tu vois. Mais je me rends compte que les gens adorent venir parler, adorent avoir des conseils comme ça. Et puis, il y a des gens avec Internet, pour avoir des conseils, ils sont perdus parce qu'il y a tellement d'informations. Comment tu t'en sors? Tu vois, donc il y a les gens, ils aiment bien venir à la boutique, parler, discuter, avoir des conseils, et puis voilà, tu vois. Donc c'est pas totalement perdu en fait le one to one, enfin.
Mais quand tu décides de démarrer là, c'est un peu galère, non? Parce que moi j'y connais rien sur comment ouvrir une boutique, évidemment, surtout de compléments alimentaires. C'est que t'as un local, tu loues un local, et puis comment tu fais? Tu contactes absolument toutes les marques que t'apprécies pour qu'ils te donnent des produits pour les afficher en magasin.
Alors, déjà, tu montes une société, tu cherches ton local. D'abord, ou tu cherches d'abord ton local et quand tu l'as, tu crées ta société ou en quasiment en même temps. Tu vois. Et ensuite, ouais, tu contactes les marques avec qui tu as envie de bosser parce que ces compléments te plaisent ou sont à tes valeurs propres. Et en fait, ils t'envoient une grille pour les professionnels, en fait, une grille de tarifs professionnels. Donc tu as les prix professionnels. Et ensuite, bah, tu mets les prix publics en magasin.
Tu mets ce que tu veux.
Pour le prix.
Enfin, je veux dire, tu peux mettre la marge que tu veux.
Oui.
Donc, admettons, t'as une marque qui te dit, ça, ce pot de protéines, c'est, je dis n'importe quoi, 20 euros.
Ouais.
Tu peux le mettre à 30 et te faire une marge de 10.
Oui.
Ou mettre à 40. Ou mettre à 70. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure, ça a des années comme ça. Il y a eu de plus en plus de concurrence avec l'Internet qui est arrivé. Donc, tu diminues tes prix pour essayer de concurrencer ce qui se fait peut-être à côté ou même sur Internet.
Ouais, c'est vrai.
Et tu finis par perdre.
C'est vrai. Mais ouais, moi j'ai créé ma marque parce que je trouvais pas ce que je voulais dans les compléments, tu vois. Moi, c'est parti de mon utilisation personnelle, tu vois. Moi, c'est trop délire. Moi, tous les compléments que j'ai faits, c'était pour moi, en fait, à la base, tu vois. Et il s'avère que comme
c'était,
les gens...
c'était quoi le problème, hein? C'est quoi qui te manquait?
Oh, ben, des combinaisons, tu vois. À l'époque, tu vois, la glycine, personne n'en faisait à l'époque, la glycine, tu vois. Donc, ça me permettait d'avoir la glycine alors que personne n'en faisait ou presque, tu vois. Plein de trucs comme ça, tu vois. Chercher ou des combinaisons, tu vois, ou des formules, tu vois. Par exemple, je faisais le Furious, c'était un mélange de Malto, de Pepto Pro et de BCA. Bon, bah, t'es obligé d'acheter les trois pour faire ton mélange. Tu vois, c'était chiant. Tu vois, en plus, les goûts étaient infâmes. Je me suis dit, attends, je vais faire mon mélange tout prêt avec un arôme et tout ça. Et puis, ça sera vachement meilleur, plus pratique pour tout le monde, tu vois. Donc, tu vois, tu pars sur des petits trucs comme ça, tu vois. Et ainsi de suite. Après, tu crées, bon, après la farine, c'est tombé un peu comme ça, tu vois. Mais, et après, voilà. Et puis, alors, maintenant, c'est encore mieux parce que je travaille avec Eric Mallet, qui est un putain de chercheur de fou, qui me fait des formules de psychopathe. Avec toutes les études sur les plantes, les machins. Et maintenant, on crée des formules, ou par exemple pour booster la testostérone, ou pour la peau, des formules spéciales pour la peau, etc. Enfin, pour plein de trucs, mais voilà, tu vois. Et okay. C'est passionnant, là. Là, c'est passionnant.
Ouais, de toute façon, c'est quoi? Un des derniers produits que j'ai vu que tu as sorti, c'est l'acide ursolique, dont j'ai jamais entendu parler.
Et là, c'est génial parce que, alors, il n'y a pas que l'acide ursolique dedans, on a combiné d'autres trucs. Pour vraiment rendre le truc hyper potentiel, tu vois. Et quand j'ai des retours de clients qui me disent « Ah, ça marche trop bien et tout », mais je suis hyper content, en fait, tu vois. Je suis super fier, en fait, tu vois. Je me dis « Putain, on a créé un truc où les gens sont contents, ils ont des résultats. » Le collagène, par exemple, c'est un truc de fou, tu vois. On a trouvé un collagène incroyable, tu vois, ou qui est ultra fin, qui est jusqu'à 1000 daltons, donc c'est encore mieux absorbé. Et quand t'as les gens qui viennent te voir, tu dis « Écoute, ça faisait 2-3 ans que j'avais mal à l'épaule, j'ai plus mal à l'épaule ou au genou », tu fais « Waouh, c'est génial, tu vois. » Bon, bah, t'as plein de trucs comme ça, tu vois. Voilà.
Ok. Je me suis noté quelques produits. Attends, je veux juste revenir sur le moment où tu crées la marque de. Enfin, pas la marque, déjà la boutique. Ça veut dire que si t'achètes à l'avance et qu'ensuite tu les places en rayon et que tu mets ton prix, c'est-à-dire qu'il te faut un gros budget de départ pour en fait. Oui. Tu dis, j'achète tous ces produits-là et puis je vais espérer que ça se vende parce que sinon ça reste pour moi en fait. Parce qu'ils te le reprennent pas derrière. Hein. Tu veux pas dire, bon, mais c'est pas comme Amazon, j'en veux pas finalement, je vous le rends, remboursez-moi.
Ouais. Ah non, c'est pas évident. Moi, je sais que les premiers mois, j'avais des jours où j'étais à zéro, tu vois. Donc, tu fermes ton magasin, tu vois, t'as fait zéro vente. Tu transpires. Hein. Mais c'est les risques de l'entrepreneuriat, tu vois.
Ouais. Ah, surtout puis, physique.
Finalement, ça marche parce que bah, tu donnes du conseil et que les peu de clients que tu as, ils reviennent parce que finalement, tu leur as donné des bons conseils, ils ont des résultats, ils reviennent, ils font venir leurs potes et puis tu l'en aiguilles, bah, tous les mois, tu as un peu plus de chiffre d'affaires et puis voilà, tu vois.
Et ta marque, c'est Anabolic Supplément ?
Au début, ouais, c'était Anabolic Supplément le nom. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre beaucoup de farine de pâte à douce et que t'avais les mères de famille qui faisaient des crêpes pour leurs enfants, je me suis dit, Anabolic Supplément, le pot sur la table, ça fait un peu, comment dire, tu vois ? Bon, ça fait un peu tendancieux. Parce que moi, c'était vraiment fixé au début pour la musculation, tu vois. Et de plus en plus, j'ai eu des produits comme ça, plus pour le grand public. Et je me suis dit, non, là, il faut changer de nom parce que je vais me fermer, quoi.
Ben, Anabolic Supplément, c'est vrai que c'est très orienté muscu, bodybuilding. Rien que le mot anabolique, je pense. Le grand public qui ne s'entraîne pas en salle a peu de chances de connaître le mot anabolique. Et ça, d'ailleurs, ouais, anabolique, ça fait très souvent. On pense.
Ouais.
Anabolisant, pas forcément.
Alors qu'à la base, l'anabolisme, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets. Mais c'est vrai.
Ouais. Ok. Et alors, tu as changé YAM Nutrition.
Ouais.
Après, hein.
Ouais, YAM, c'est pâte à douce aux États-Unis. YAM, c'est la pâte à douce, en fait.
Ok.
C'est sympa, donc voilà.
Tu sais comment on appelle ça ici ? J'ai oublié, là, parce que je sais pas si tu sais, hein, je suis à Montréal, donc au Québec.
Non, comment on appelle ça ?
Attends, mais j'ai oublié, je voulais le dire, j'ai oublié. Attends, je regarde. Ah, c'est pas possible, je vais pas le trouver.
Bah, t'as sweet potatoes aussi, tu vois.
Mais ouais, c'est... mais ça, c'est en anglais, ouais. Écoute, je vais le retrouver. Hein, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est assez marrant parce que ça n'a pas exactement le même nom. Enfin, il y a une façon de l'appeler. Donc, YAM Nutrition, qui est le nom, ok, qui est le nom anglais, enfin, aux États-Unis. Ils appellent ça quoi ?
Aux États-Unis, ouais.
Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que ça existe déjà, la farine de pâte à douce là-bas ? Ou t'as ça en tête, tu te dis, est-ce que je pourrais pas aller là-bas aussi ?
J'y ai pensé à un moment donné, mais en fait, c'est tellement compliqué avec les États-Unis. C'est un pays qui est assez complexe. Et ouais. À un moment donné, j'ai failli. En fait, il fallait monter carrément un laboratoire là-bas, tu vois. Donc, l'investissement, il est énorme, tu vois. Et je me suis dit, non, j'ai pas les reins assez solides pour m'amuser à conquérir le marché américain qui est un marché un peu à part, tu vois. Parce que importer avec les taxes, c'était pas rentable, tu vois. Parce que moi, ma marge sur la pâte à douce, elle est pas énorme. Donc, rajouter une taxe là-dessus, c'est déjà que c'est un produit qui est un petit peu cher, parce que c'est du concentré. Je me suis dit, non. Il fallait ouvrir une usine là-bas, mais c'était des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros, plus employer minimum 5 Américains. Enfin, c'était un peu. Je dis non, j'ai pas encore l'air insolite pour pouvoir faire ça. Mais ça m'a traversé l'esprit pendant un long moment, surtout j'avais un ami qui vivait à Miami qui était chaud pour faire ça. Et bon, ça s'est pas fait. Peut-être dans l'avenir, on sait pas, hein, mais c'est vrai que c'est plus un truc que j'ai en tête là pour l'instant.
Ouais, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et alors, est-ce que c'est difficile de créer sa marque ? Est-ce que tout le monde, n'importe qui, pourrait créer sa marque de compléments alimentaires ?
Oui, tout le monde peut créer, hein, quasiment. Tout le monde peut créer après.
Qu'est-ce qu'il te faut ? S'il y avait la recette là pour ceux qui veulent créer leur propre marque, j'ai Siri qui s'active. Pas possible.
Qu'est-ce qu'il faut ? Bah, il faut déjà de l'argent. Hein. Et puis les banques là vont pas vous prêter, hein, puisque la banque ne te prête pas. Alors, je sais pas comment ça se passe au Canada, hein, mais en France, en tout cas, la banque te prête pas pour l'achat de marchandises.
Donc il te faut toi-même avoir ton propre
ton capital.
Budget pour ça, ton capital. Ouais.
Ou alors tu as des business angels, c'est-à-dire des gens qui misent sur toi, qui te prêtent de l'argent, mais bon, c'est-à-dire que tu es obligé de t'associer ou leur filer des parts, c'est bon, tu vois. Donc ce qu'il te faut au départ, c'est de l'argent. C'est de l'argent propre, tu vois.
Ok, voilà. Et alors comment tu fais ? Tu contactes un labo
tu peux contacter tes laboratoires. Il te faut tes formules ou ce que tu veux vendre. Après, le problème, c'est que la concurrence est telle aujourd'hui, c'est que si tu fais... c'est quoi ton prénom déjà ?
Jérôme.
Jérôme. Bah, tu dis la Jérôme Nutrition, j'ai n'importe quoi. Jérôme Nutrition, tu crées ta marque.
Après,
Jérôme Nutrition, si tu t'as mise à faire des BCA, de la whey, et tout ça, alors que tout le monde en fait, bon, il va falloir savoir comment tu vas faire pour te démarquer des autres, quoi. Ou alors, t'es très bon en marketing. Et t'es un crack en marketing et tu tires ton épingle du jeu. Mais si t'es pas un crack en marketing et tout, pourquoi les gens vont vouloir acheter ta marque Alors, tu refais encore des BCA, tu refais encore la whey, tu refais encore la glutamine et je ne sais quoi. Tu vois.
En fait, ce qui est plus intéressant, c'est déjà avoir une espèce de notoriété. D'ailleurs, c'est pour ça que les athlètes, souvent, ils se reconvertissent derrière.
Là, oui.
Ils créent leur propre marque.
Parce que si tu es connu, bah forcément, tes followers ou les gens qui te suivent, ils vont peut-être pouvoir acheter chez toi parce que tu leur donnes confiance. Tu vois, c'est ce qu'il y a eu un peu avec moi d'ailleurs. Moi, j'étais déjà un tout petit peu connu, pas énormément, mais un petit peu connu quand même, par rapport au forum, par rapport à ça. Du coup, bah, j'ai eu déjà quelques personnes qui commençaient déjà à acheter, tu vois.
Et alors, j'ai entendu un truc, on l'entend pas mal, que parfois, pour deux marques différentes qui disent, qui donnent leur propre avantage sur leur marque, évidemment, ils font leur branding, qu'en fait, à l'origine, ce sont les mêmes laboratoires ou les mêmes sources d'approvisionnement et qu'en fait, ce qui change, c'est la couleur du pot et l'étiquette qu'il y a dessus.
Souvent. Mais comme dans l'industrie agroalimentaire. Hein. Mais oui. Oui, mais c'est pas faux. T'as par exemple Danone qui fait pour toutes les marques low cost possibles et imaginables. Donc tu vas acheter tes pots Danone. Excusez-moi d'avoir cité la marque. Les pots Danone Uplay ou je sais pas qui. Et en fait, tu vas payer peut-être, je sais pas, n'importe quoi, 1,50€ le pack. Et en fait, tu vas dans une surface qui est low cost, tu vas payer 1,10€. En vrai, c'est le même produit. C'est fou. Mais oui. Oui, bah, tu sais, les achats de première, le marché première, il n'y en a pas 300 milliards dans le monde. Hein. Donc, généralement, les fournisseurs, par exemple, laitiers, les gros fournisseurs laitiers, t'as quoi? T'as 5 ou 6 industries dans le monde, tu vois. Les très gros, tu vois. Bon, ben voilà.
Ok, c'est marrant. Et toi, tes fournisseurs, tu les partages avec d'autres marques?
Moi, ce que j'ai voulu faire, alors déjà, il y a quelques produits qui sont un peu exclusifs, tu vois, comme le collagène, tu vois. Là, c'est un label Colinstant, c'est un truc allemand, bon, très particulier, tu vois. Ils ont un processus de fabrication qui est un peu unique au monde, donc pour l'instant, ils sont les seuls à le faire. Donc voilà. Mais après, bah, tu vois, par exemple, les protéines, moi, c'est une marque, je vends une marque, je ne vends pas ma marque. Parce qu'en fait, j'essaye vraiment d'être dans l'innovation, moi. Tu vois, c'est un peu ma marque de fabrique. D'être dans l'innovation pour éviter de copier tout le monde. Tu vois, alors forcément, tu as des trucs qui ressemblent aux autres. La glycine, bon, c'est un produit seul. Bon, la créatine, c'est un produit seul. Malheureusement, tu vois. Mais par contre, j'ai plein de formules avec des ingrédients synergiques. Et là, voilà, je me détache du truc parce que j'ai créé un produit synergique qui permet d'avoir un potentiel optimal, tu vois. Et c'est là où je me démarque, moi.
D'accord. Ok.
Plus en études, plus les études, plus tout, tu vois.
Tu m'as dit que avec qui tu travaillais pour les labos?
Eric Mallet.
Les labos. Eric
Mallet. M-A-2-L.
Ok.
C'est un peu mon savant fou, lui.
Ah ouais. Est-ce qu'il a les cheveux? Est-ce qu'il ressemble au doc?
Ouais, un petit peu.
Bon, on lui passe le bonjour.
Alors, l'avantage, c'est que lui, c'est un vrai pratiquant. Tu vois, il fait la musculation aussi depuis 30 ans. Et ça, c'est important parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est qu'on consomme nous-mêmes nos propres produits. Combien de PDG aujourd'hui consomment leurs propres produits? Quasiment personne. Ils sont là pour faire de l'argent. Nous, on s'entraîne, on prend nos propres produits, on teste sur nous. Donc, si tu veux, il y a une vraie plus-value à ça. C'est-à-dire qu'on consomme nos propres produits, quoi, tu vois. Donc, et moi la seule limite que j'ai donnée à Eric Mallet, c'est simple. Je dis, voilà, tu me fais ce que tu veux. La seule chose que je veux, c'est que le produit marche.
Mais quand tu dis il marche, parce que souvent le complément alimentaire, on a cette tendance à penser que, enfin surtout quand on connaît pas au début, que ça va être quelque chose d'incroyable, que tu le prends, ça y est, ça va révolutionner soit tes entraînements, soit ta récupération, soit tes sensations, enfin peu importe. Et au final, c'est juste un complément alimentaire, c'est qu'il t'arrive rien.
C'est un film, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, on a quand même beaucoup de données scientifiques, tu vois. Donc si vraiment on a un truc on sait qu'au niveau de la science, ça donne rien. Tu vois les BCA aujourd'hui, on sait tous. Les BCA, ça fonctionne pas, tu vois. Donc pourquoi gaspiller de l'argent dans des BCA alors que des BCA, enfin, t'en as dans ton alimentation normale. Et je pense et on a remarqué que de prendre ces acides aminés totalement isolés, bah, ça apportait pas grand-chose en réalité. Donc c'est un peu dommage, tu vois. Bon, il y a des choses comme ça.
Et
le
alors,
collagène, on sait que scientifiquement, il y a vraiment une plus-value, tu vois. Donc il vaut mieux mettre de l'argent dans du collagène que dans des BCA, tu vois. Par exemple, à choisir suivant son objectif, bien sûr, mais tu vois. Donc je lui ai dit, voilà.
Quand tu dis que ça marche,
il y a des résultats. Ou alors c'est prouvé par la science, tu vois. Il faut que ça soit prouvé par la science et une science plutôt indépendante, parce que c'est sûr que si c'est une marque qui a dépêché un labo pour faire des tests, c'est la marque qui le fait, ça va pas non plus, tu vois.
Bon, alors ça, tu connais Mathias Soulol?
Oui, j'adore Mathias.
Oui, bon. Ouais, j'ai enregistré un épisode entier avec Mathias où on a passé en revue beaucoup de choses, beaucoup de questions sur les études scientifiques, comment étaient faites les études, est-ce que ça pouvait être acheté, etc. Donc l'épisode sera sorti ou sortira. Et alors c'est extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Effectivement, des fois, il faut toujours rester un peu prudent sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, sur les conclusions d'études.
Tout à fait.
Et se référer à des personnes qui savent les analyser, enfin qui savent en tout cas les lire.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui.
Ouais. Oui, vas-y, dis-moi. Non,
mais je te dis, moi, l'avantage, c'est qu'on teste aussi sur nous, tu vois. C'est qu'on pratique, on teste. Et on voit, il y a des produits, je sais qu'il y a un ou deux produits que je ne fais plus, j'arrête, tu vois, parce que.
Comme quoi.
Vraiment. Après, on est d'accord, ça reste des compléments, ça reste du micro ou machin. C'est sûr que c'est du micro. C'est pas des anabolisants, c'est sûr que c'est pas folklorique, enfin c'est pas, on est d'accord.
Alors si je prends un exemple là, qui est l'acide ursolique, on revient là-dessus. Alors il y a pas que ça, hein. Tu m'as dit qu'il y avait d'autres choses qui étaient à l'intérieur pour
améliorer le produit.
Alors quand tu reçois des feedbacks où les gens te disent ça marche, c'est quoi qui marche exactement?
Et ben ils me disent que ça leur a permis de perdre plus de poids, de prendre plus de muscles. Enfin, tu vois, ben, là, plusieurs pour celui-là, en tout cas. Okay. Et je t'assure, je suis le premier surpris, d'ailleurs. À chaque fois, je te jure. Tu vois, j'ai un complément. Ben, là, on parlait de ça, mais j'ai un complément où à chaque fois, c'est spectaculaire. C'est sur le Skin Nutritive. En fait, c'est un truc pour la peau. C'est à base d'acide hyaluronique et d'antioxydants et de collagène, tu vois. J'ai des avant-après avec ça. Moi, au début, quand les clientes ou les gars m'envoyaient ça, je dis, c'est pas possible, vous avez fait un Photoshop, tu vois. Même moi, j'y croyais pas. Même moi, tu vois. Il m'a dit, je te jure, Christophe, je te jure, non, machin, et tout ça. Et en fait, sur la peau distendue, en fait, il y avait une vraie amélioration de la peau, quoi. Tu vois, une vraie obstruction de la peau, quoi. Et je trouvais ça ouf. Et même moi, au début, je leur ai dit, arrêtez de me foutre ma gueule, vous avez utilisé Photoshop et tout, tu vois. Et en fait, j'en ai eu plusieurs comme ça. Et j'ai dit, ah ouais, mais en fait, ça marche vraiment. C'est génial, tu vois. Moi, le collagène, par exemple, pour le skin, je l'utilise beaucoup pour éviter d'avoir trop de rides, tu vois. Et j'ai pas l'impression de lire, tu vois. Alors, c'est peut-être ma génétique aussi, tu vois. Je dis pas le contraire, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même un petit côté qui fonctionne bien, tu vois.
Ok. Et alors, comment est-ce qu'il y a des concurrents qui font ça, qui commencent à réaliser les mêmes mélanges ou les mêmes associations sans les citer juste
pas dans mes concurrents directs encore. Collagène, bah, maintenant tout le monde en fait. Hein. Tout le monde fait du collagène.
Ouais, ouais.
Mais le skin, par exemple. Alors, peut-être dans la cosmétique, mais le problème dans la cosmétique, c'est que c'est des petits dosages, tu vois. C'est le problème, tu vois, parce que eux, le but, c'est faire un maximum de marge. Donc, ils mettent des dosages d'enfants un peu, tu vois. Nous, on met les dosages maximum autorisés possible, tu vois. Donc, nous, on charge vraiment la mule, tu vois, dans les ingrédients autorisés.
Ok. Et alors, comment ça se fait? Moi, je réfléchis. Tu sais, je prends du recul comme ça et a priori, je me dis... J'ai pas testé. Vous livrez pas au Canada, à tout hasard?
Je crois qu'on a un problème avec la douane au Canada aussi. Je sais que j'ai beaucoup de clients canadiens qui commandent, mais en fait, ils se le font envoyer par un. En fait, il y a un. Ils ont des amis français qui commandent et qui les renvoient après au Canada.
Ok, ouais, je vois le truc, ouais. Et donc non, alors moi j'ai pas testé, donc je sais pas du tout sur personnellement, mais je me dis a priori comment ça se fait qu'il y en a pas d'autres qui se sont mis sur le marché si vous avez remarqué autant de, enfin s'il y a de l'engouement, comment ça se fait qu'il y a encore personne qui est arrivé dessus?
Déjà parce que je suis assez récent. Enfin tu vois, je suis pas une marque. Déjà, je pense pas avoir la visibilité des très grandes marques. Toi, t'as des grandes marques, t'as des groupes qui pèsent des dizaines de millions. Moi, j'en suis pas encore là. Donc, si tu veux, je suis peut-être moins visible. Enfin, tu vois, la farine de pâte à douce, tout le monde le fait maintenant. Tu vois. Donc là, ils ont vu, ils ont pêché le filon, tout ça. Donc maintenant, quasiment toutes les marques font de la farine de pâte à douce, tu vois, par exemple. Tu vois.
Ouais.
Donc quand même, tu vois. Après, il y a d'autres produits parce qu'ils sont peut-être pas encore assez populaires encore, tu vois. Ils sont pas là à scruter Christophe Bonnefond, tu vois, son petit Instagram pour voir si, tu vois. Donc, je pense que je suis encore assez intimiste, entre guillemets, pour que les grosses marques s'intéressent encore à moi. À part pour la farine de pâte à douce, parce qu'ils ont vu quand même que ça posait problème. Je suis en train de ramasser tout le marché. Là, ils se sont dit, hop, lui, on va le calmer. Et on va le concurrencer, tu vois.
Ok. Et on t'a pas vu sponsoriser des influenceurs, là, encore, ou ou avoir les petits codes promo, peu, là, comme beaucoup.
Très, très peu, et encore moins maintenant, parce que j'estime que les stars, en fait, ce sont mes produits. Ce n'est pas les influenceurs. Tu vois sur, à Paris, quand j'ai mon stand au début, j'avais deux, trois influenceurs. Tout le monde était sur les influenceurs. Tu vois. Mais en fait, les mecs, ils passent à côté du stand, ils s'en foutaient. Hein. Et en fait, quand je suis au salon, la star, c'est la crêpe. Et j'ai des queues de partout. C'est blindé du matin au soir, tous les jours. Mais parce que la star, c'est la crêpe, c'est pas l'influenceur. J'ai rien à foutre de l'influenceur. La star, c'est la crêpe parce que c'est tellement bon et machin qu'ils viennent pour bouffer la crêpe à la fin de Patadouce de Bonnefond, quoi. Tu vois, c'est celle, la star, c'est pas l'influenceur. Ça aussi, tu vois, c'est une image.
Mais comment tu fais pour faire connaître quand il y a pas de... Surtout là, en ce moment, il y avait pas de comment de... Il y avait pas de salon, il y avait pas de regroupement physique ou quoi. Comment tu fais pour faire découvrir les produits pour ceux qui connaissent pas?
Les clients eux-mêmes.
Tu mises sur le bouche à oreille, mais c'est, pas enfin, ouais. Dira, c'est un des meilleurs, hein, mais c'est celui qui est impossible à quantifier.
Oui, mais moi, je vois mon chiffre d'affaires augmenter.
Ouais, donc t'es sur la bonne voie. Ouais.
Bah, je pense.
Ok.
Et j'ai zéro budget pub. Zéro. Il va falloir que je m'y mette un peu, hein, je le sais, parce que tout le monde y va, je les vois tous, ils charbonnent en pub. Oh, je les vois tous, même moi, du coup, j'ouvre à peine mon téléphone ou mon autre truc, j'ai la pub de mes concurrents. Et partout, ils bombardent partout, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Mais je me dis, même au bout d'un moment, ça doit être saoulant même pour les gens, tu vois. T'es un peu de pub, tu vois. Mais
Et la pâte à douce, par exemple, tu peux l'utiliser quand tu sèches, quand tu quand t'es en prise de masse? Est-ce que tu as une recommandation?
Oui, bien sûr. Après, c'est juste des glucides. Ouais. Donc, ça va dépendre tout simplement de tes besoins quotidiens en glucides. Donc, ça peut rentrer totalement dans tes macros, tu vois.
Ok. Il n'y a jamais d'allergie. Tu n'as pas eu des retours de personnes qui étaient... pas d'allergie, mais d'intolérance comme on peut avoir avec certains produits.
Non, jamais. Jamais eu. Jamais.
Ok. Et alors, tu as continué à garder ta boutique de compléments.
Oui.
Ça, on disait tout à l'heure, là... Que oui, bah, c'est des gens de ta famille ou des connaissances que tu connais qui gèrent le
truc. Des amis dedans, donc je les laisse pour eux, en fait.
C'est quoi ton rôle, toi, là-dedans?
Dans le magasin et salle de sport?
Ouais.
Pas grand-chose. Mon rôle, c'est si je leur passe les commandes, quand même. Je leur passe les commandes. Et ils sont totalement autonomes. Ils ont ma confiance absolue.
D'accord. Bon, bah, t'as combien, là? Trois salles? Deux
Deux salles maintenant, j'ai une qui est vendue. J'ai deux salles de magasin.
Salle de magasin.
Ça représente 5-10% de mon chiffre d'affaires.
Ouais, et alors tu disais, tout se fait en ligne, quoi. Mais de toute façon, aujourd'hui, ouais. Si t'es pas en ligne, t'es cuit. Enfin, t'es cuit.
T'es cuit. Disons que tu auras peut-être du mal à développer après, quoi.
Et c'est quoi ton objectif physique, là, maintenant que t'as créé tes marques, t'es chef d'entreprise de plusieurs entreprises C'est quoi ton objectif? T'as envie de te maintenir? T'as envie d'être...
Ouais, c'est exactement ça. Bah, tu sais qu'avec l'âge, ça, généralement, on perd un peu de masse musculaire, tu vois. Vraiment, ouais, m'entretenir, être en excellente santé. C'est, voilà, être en bonne santé, tout en profitant de la vie, tu vois, parce que je suis un vrai épicurien, tu vois. Donc, j'aime bien manger. Mais voilà, avoir un équilibre de vie entre le physique, la santé, et puis profiter de la vie, tout simplement. Moi, j'adore voyager, donc... Donc, c'est ça, quoi.
Tu t'entraînes comment?
Méthode d'entraînement?
Ouais, comment tu t'entraînes? C'est quoi tes programmes?
Peut-être qu'au Canada, vous connaissez, parce que c'est un Américain. Tu connais Doug Brignoles?
Non.
Bon.
Regardez.
C'est un mec, c'est un docteur en biomécanique.
Ah bah tiens,
ça tombe bien.
Ouais.
Ça va te passionner. Je m'entraîne totalement avec sa méthode. Avec quelques petites variantes que moi j'ai inclus, bien sûr. Mais on va dire que 90% de mon entraînement, c'est du Doug Brignoles.
Et dans les grandes lignes, ça correspond à quoi? Enfin, c'est à quoi de spécifique?
C'est un chercheur, en fait, c'est un docteur, hein, un docteur en biomécanique. En fait, c'est un chercheur en biomécanique. Et en fait, il a revu pour tous les muscles, tous les exercices.
Ok, et alors.
Il n'y a quasiment aucun exercice polyarticulaire.
Voilà, ça. Il y en a qui vont gueuler là.
Il y en a beaucoup qui vont gueuler. Même moi au début je gueulais. Mais en fait, depuis que je m'entraîne comme ça, c'est incroyable. Plus de blessures. Même musculairement, c'est génial.
Et je sais pas, on a un exemple par exemple, développé couché là, l'exercice roi pour les pectoraux. Il fait pas de développé couché. Alors pourquoi? Pour quelle raison et par quoi il le remplace et pour quelle raison il le remplace?
Alors il le fait au poli dans un sens très particulier. En fait, si je passe, tu me vois à la caméra là?
Ouais.
Lui t'explique en fait que les fibres du pectoral, ça part un peu comme ça. Donc t'as le point d'insertion, t'as le point d'insertion du pectoral et puis ça part un peu comme un coquillage, tu vois, comme ça. Et le sens des fibres va dans ce sens. Même les fibres du haut du pec, parce qu'on pense que, si tu veux, quand tu as le bras relâché comme ça, tu dis, ah, la fibre, elle est comme ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un mouvement pour remonter comme ça. Tu vois? Mais non, parce qu'en fait, quand tu étires le muscle, en fait, regarde, ça se voit, mon pouce, il tire comme ça. OK? Donc, en fait, tu fais un mouvement un peu de haut vers le bas pour aller vraiment dans le sens des fibres. OK? Donc lui, il estime que le plus efficace pour ça, c'est de faire assis, poulie vis-à-vis, tu vois, et tu descends dans le sens des fibres. C'est un exemple.
D'accord. Alors il est pas là pour en parler évidemment, mais j'aurais une première. Enfin, j'ai quelques objections. Ça veut dire que je réfute. Hein, ça veut dire que c'est des questionnements que j'ai. C'est que par exemple sur le haut du pectoral, effectivement, si tu lèves le coude, pour ceux qui n'ont pas la vidéo là, qui nous écoutent dans les oreilles, si tu lèves le coude, effectivement, tu vas étirer la partie basse du grand pectoral. Donc tu vas le mettre en pré-étirement. Donc je vois bien l'idée d'aller faire un mouvement comme ça vers le milieu et le bas, mais au niveau du haut des pectoraux, si tu lèves le coude, tu raccourcis les fibres puisque tu les désétires. Donc, si tu veux étirer le haut du pectoral, étant donné que les fibres, elles sont, c'est très difficile à expliquer en audio. Hein, mais
tu vas m'expliquer comment tu arrives à étirer le haut du pectoral.
Ben, a priori, je dirais en amenant le coude vers l'arrière et un petit peu vers le bas, ou en tout cas en descendant. En dessous de la parallèle.
En fait, ouais, c'est l'humérus. En fait, le mouvement du pectoral. En fait, imagine qu'il n'y a pas d'avant-bras. Donc, en fait, le mouvement du pectoral, c'est que ça. C'est juste, toi, le moignon, tu vois. C'est ça l'adduction, tu vois.
Et alors, il fait.
En fait, quand tu es en bas, tu sens qu'il n'y a pas d'étirement. Donc, de toute façon, dans tous les cas, tu es obligé de lever le coude. Parce qu'en bas, tu vois bien qu'il n'y a pas d'étirement. Tu le sens même. Tu le sens. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Mais quand tu es en bas, tu vois, tu n'as rien. Tu vois bien que l'étirement, tu es obligé de partir un peu, tu vois, de lever un peu le coude. Tu vois. Après, il sera peut-être plus. Enfin, il te l'expliquera beaucoup mieux. Il fait beaucoup de vidéos sur YouTube en plus où il explique tout. Et je pense que ça sera passionnant pour toi.
Ouais, je vais aller regarder un peu.
Ça sera plus explicite que moi. Tu vois.
Bon, ouais, non, mais bien sûr.
Je vais vous donner un autre principe. Il part aussi du constat que, par exemple, un muscle, il est plus fort à l'étirement. Quand il est tiré, que quand il est raccourci.
Ça va énerver certains aussi.
Et ouais, mais tu le vois, hein, tu le vois, quand tu vas développer couché, tu vois bien que tu peux arriver, quand t'as très lourd, t'arrives à pousser au début, mais que t'arrives plus à tendre, par exemple, tu vois. Tu vois bien qu'au début, que t'es plus fort au départ. T'as qu'un seul muscle qui est pas plus fort à l'étirement, c'est le biceps.
Ok.
Voilà. Et bref, voilà. Enfin, t'as plein de trucs. Donc il sélectionne les. Enfin, il a même créé des exercices hein, pour qu'il y ait tous ces paramètres. Bon, il y a les courbes de force, courbes de résistance. Enfin, c'est très complet, c'est très riche. Ce serait difficile à tout expliquer ici, mais je
vous conseille
de
voir
ce qu'il fait parce que c'est passionnant.
Doug Brignol. Bon,
c'est un bodybuilder. Je mets ça en note. Et il est en plus bodybuilder. C'est-à-dire que le mec, il est docteur en biomécanique et en plus, il est bodybuilder. Il a 60 ans. Et il a un corps de psychopathe. Il est très connu, hein. Il est hyper connu aux États-Unis. Même tous les grands champions, ils le connaissent.
Hein. Ok. Ouais, tu sais quoi, je laisserai son Instagram, je pense, en lien pour ceux qui veulent aller regarder là, dans les références de l'épisode. Ils pourront aller voir ça. Ok. Et toi, ça a changé quoi concrètement sur toi? Donc, tu m'as dit plus de blessures.
Plus aucune blessure. Je suis plus épuisé parce que comme je ne fais plus de mouvements pour l'articulaire, j'ai mon système nerveux qui est toujours nickel. Tu vois, donc ça me permet de m'entraîner souvent. Alors, t'en bouges pas, je dois juste charger mon ordi.
Vas-y.
Voilà, c'est bon.
Yes.
Ouais. Et alors, je sais plus de quoi on disait quoi.
Donc, plus de blessures, tu me disais, non, plus les polyarticulaires aussi, tu as.
Plus de blessures, j'ai rattrapé des points faibles que je n'avais pas rattrapé depuis 30 ans, enfin depuis 25 ans, tu vois.
Comme quoi
L'intérieur du dos, même sur les quadriceps, enfin, c'est assez dingue en fait.
D'accord, t'as pas un.
Bah ouais, parce ouais. que tu focalises à 100%, en fait, 100%, tu focalises sur le muscle ciblé, quoi. Parce que chaque exercice qui cible, il est optimal à 100%. Tu vois pareil, on est en distance des fibres. Lui te dit qu'il faut que la résistance soit face à face par rapport aux fibres. Tu vois. C'est là où tu as le plus de résistance. OK mm-hmm. Donc, si tu fais un mouvement où tu es un peu comme ça, bah, tu n'as pas la même résistance que si tu étais aligné face à face. Tu vois.
Alors ça c'est difficile pour les exercices polyarticulaires, je pense au biceps par exemple.
C'est pour ça qu'il conseille des exercices polyarticulaires. Il dit que c'est bien quand vous n'avez pas le temps et que machin. Mais c'est pour ça qu'il fait faire aucun exercice polyarticulaire.
Ok.
Ah, c'est au début, honnêtement, ça te casse la tête. Au début, tu dis, mais, parce que ton cerveau, il veut pas changer, tu vois. Tu dis, mais non, moi, on m'a appris que l'exercice polyarticulaire, c'est l'exercice roi, entre guillemets, pour faire de la masse musculaire, etc. Et lui, il va te prouver que non. Mais comme tout le monde le fait, tu as forcément des résultats, mais puis tu as quand même des résultats, mais il dit que c'est pas le plus optimal.
Ok.
Pour les cuisses, par exemple, il va te dire qu'il faut faire du 6-6 squat et pas du squat conventionnel, tu vois.
Ok, j'ai absolument pas d'avis. Je suis ni pour ni contre, hein, je veux dire, à la limite. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'une façon de faire, mais. Ouais. Ok. Et puis toi, ça, non, mais. Ouais. Ben, j'ai regardé ça. Qu'est-ce que je vais te demander? Est-ce que tu as eu des blessures, toi, dans ta carrière de bodybuilder ou même tout simplement en tant qu'amateur passionné?
Assez peu. Quelques. Bon, on se fait mal au dos régulièrement. Ça arrive, tu vois, mauvais mouvement, machin. Un peu au dos de temps en temps, mais bon, ça s'est toujours résorbé. J'ai eu une tendinite à l'épaule qui a duré longtemps. Très, très longtemps.
T'avais fait quoi?
J'ai arrêté tous les mouvements au-dessus de l'épaule, que ce soit des tirages, que ce soit des poussées, que ce soit l'élévation, voilà, pas plus que ça, etc. J'ai arrêté tous ces mouvements-là qui étaient au-dessus de l'épaule.
Non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu t'étais fait comme problématique?
Oh, c'est au niveau de l'acromion, c'est conflit classique. Moi, tu vois, j'ai même un os qui a poussé de ce côté, tu vois, qui a poussé pour compenser en fait la contrainte mécanique, tu vois. Et des tendinites dans l'épaule, dans l'acromion sous-épineux, je crois que c'était sous-épineux acromion.
Ouais, d'accord.
Classique. Malheureusement. Ouais,
le classique de ceux qui font beaucoup de muscles. Mais après, ça dépend de ta conformation osseuse. Oui, attends, c'est ça, là. J'ai pensé, je ne l'avais pas noté, mais ça vient de me revenir dans la tête. Je ne veux pas rester 36 000 ans sur Doubrignol, hein, mais par exemple, qu'en est-il des en fonction des morphologies, en fonction des.
Alors
des
justement avec sa méthodologie, en fait, y a, c'est pas un problème, en fait, les morphologies. Tout l'exercice qu'il préconise, c'est. Il dit pas, voilà, bon, on sait que pour les pecs, il faut faire développé couché, donc t'as la morphologie, t'as pas la morphologie. Lui, il a plus développé couché, de toute façon, il dit que ça va pas. Bah, tu vois? Donc, en fait, tout l'exercice que tu fais, ça prend même plus en compte la morphologie, parce que de toute façon, c'est l'exercice qui pose problème par rapport à la morphologie n'existe plus.
Mais en fonction de l'exercice, selon l'insertion de ton muscle, par exemple, si le grand pectoral qui s'insère un petit peu plus bas sur l'humérus ou un petit peu plus haut, ça va changer l'angle des fibres. Donc forcément, l'angle du mouvement ne sera pas le même en fonction d'un sujet ou d'un autre. Pareil pour le dos.
Mais tu verras qu'il a tellement sélectionné les mouvements que t'as pas de. Je me suis posé la question aussi comme toi. Et en fait, tu te rends compte que en fait non, c'est quand t'imposes un mouvement. Que tu t'imposes un mouvement, est-ce que ce mouvement il est adapté à toi ou pas? Si par exemple on te dit bon bah tu dois faire du squat, bah tu te poses pas la question, c'est est-ce que tu as suffisamment de souplesse de cheville, de hanche, est-ce que tu as un fémur long, court, bon, un buste long, court, enfin tu te poses pas toutes ces questions. Enfin, lui il se pose pas ces questions, de toute façon les mouvements qu'il a choisi, de toute façon déjà c'est pas exercice pour l'articulaire, mais entre guillemets d'isolation. Lui il dit focalisation. Donc, en fait, il a enlevé ce problème-là.
Ok. Voilà. Bon, très bien. C'est bon, je boucle.
Honnêtement, au début, c'est très... au début, c'est très... c'est très perturbant. Par contre, quand tu as compris le truc, tu fais, ce mec, c'est un génie. Voilà. Mais je te laisse découvrir parce que Ouais. Moi, je vais mal en parler, donc je préfère que ce soit lui qui est docteur en biomécanique pour vous expliquer le truc.
Ok, parfait. Allez, les dernières petites questions que j'aime bien poser. T'as des expériences un peu avec des kinés, des ostéos, des naturaux. Qui c'est que tu vas voir? Qui c'est que t'as déjà vu dans
assez
le passé?
Assez peu. J'ai deux, trois amis ostéos, mais assez peu pour dire la vérité.
Il y a une raison à ça? C'est que tu prends pas le temps ou simplement t'as pas eu de bonnes expériences?
Non, mais parce que, comme je t'ai dit, je me suis blessé assez rarement et que la question qu'on peut se poser, c'est que. En fait, on se pose souvent la question pourquoi, par exemple, les ostéos, ça, c'est pas remboursé, tu vois. Mais parce que souvent, ça passe tout seul. Le problème, il est là, en fait, c'est qu'au bout de. Si tu vas ton ostéo et que tu as une douleur, tu vas ton ostéo dans les deux jours, il te manipule, t'as rarement plus la douleur, t'as encore plus la douleur, puis elle passe. Et que tu vas pas voir l'ostéo et puis qu'au bout d'une semaine, c'est passé aussi. Bon, je sais pas, tu vois. En fait, j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Je peux pas m'avancer parce que je suis pas spécialisé là-dedans, donc j'ai pas.
Ok, non, mais c'était pas forcément pour une explication ou quoi, parce que je pourrais te demander par exemple, et dans ce cas-là, pourquoi le kiné, et ça serait intéressant de mais c'est pas pour avoir une réponse, c'est juste pour toi, je suis curieux de savoir ce que tu faisais.
J'y vais très rarement.
Ouais. Tu passes des bilans sanguins, tu essaies de voir un petit peu ce qui se passe dans
Ouais, de temps en temps, ouais. Bah, plus je vis, en plus, plus je fais un peu attention.
Tu fais gaffe, ouais. Tu fais quoi pour ta santé au quotidien? Est-ce que tu as des tips, des astuces, des choses?
Ma santé au quotidien, j'ai quand même une alimentation qui est quand même suivie, même si je me fais plaisir souvent. on peut voir sur mon Instagram. Mais malgré tout, j'ai quand même une alimentation au quotidien qui est assez contrôlé entre guillemets, tu vois. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir des aliments avec des nutriments riches en nutriments, tu vois.
Ouais.
Tu vois. Donc voilà, je mange des huîtres régulièrement, par exemple, qui sont une excellente source de zinc et de cuivre et tout ça. J'essaye de manger une fois par semaine du foie de veau parce que pareil, c'est un aliment qui est hyper intéressant. Je mange des œufs tous les jours, par exemple, aussi, tu vois. Je mange beaucoup de fruits. Des légumes aussi, mais peut-être un peu moins. C'est vraiment les fruits que je mange vraiment beaucoup. Je consomme un peu d'huile d'olive. Enfin bon, j'essaye vraiment d'avoir une alimentation la plus saine possible. Quoi.
Les compléments que tu prends que tu juges le plus important aujourd'hui, là, après, selon ton expérience, les retours, les études, les ceci, les cela.
Le magnésium. Moi, j'ai une formule qui s'appelle le Super Mag. Ça, le magnésium, parce que c'est assez dur d'avoir suffisamment de magnésium au quotidien, sauf que moi, j'ai une vie assez stressée par rapport à mon travail, plus entraînement. Enfin bref, le magnésium, c'est quand même un minéral qui est souvent carencé, tu vois, malgré tout.
Combien de grammes par jour tu préconises?
Je dois être à peu près
que toi, tu prends déjà.
Je prends, je crois, c'est 500 ou 600 mg par jour de magnésium, pur. En fait, je prends 2 grammes de magnésium, mais c'est du bisglycinate de magnésium, ça représente... entre 400, 500 ou 600 mg, quoi. Je compte pas. Je prends le Virilis, là, le fameux booster de testostérone. Tu vois. Ouais. Parce que dedans, t'as la chawanga qui est pareil, tu vois. La chawanga, tu vois, c'est quand même des plantes qui sont assez reconnues. T'as des racines d'ortie qui sont pas intéressantes. Il y a du zinc. C'est pareil, le zinc, à part bouffer des huîtres tous les jours, c'est pas un truc, tu vois, que tu vas forcément avoir en quantité suffisante. Tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, voilà. Voilà.
Mais alors, attends, juste, tu vois, je rebondis sur un truc, sur le fait que le zinc, t'en retrouves pas mal dans le fruit de mer, là, les huîtres.
Ouais.
Pour les populations qui, par exemple, parce qu'on le disait tout à l'heure, là, sur la paléonutrition, le fait que c'est en fonction d'où c'est que tu trouves, tu vas pas avoir le même type d'alimentation. Oui. Pour ceux qui ne sont pas près de la mer de base, les peuples qui ont été au fin fond de la forêt, ils n'ont pas un besoin en zinc qui va être équivalent à ceux qui sont proches des océans.
Ouais, en fait, il faut voir où ils trouvent leur source de zinc. Peut-être qu'ils ont dans l'alimentation, parce que du zinc, tu n'en retrouves pas que par exemple dans les huîtres. Mmh. Tu vois, dans le foie de veau, par exemple, le foie de veau, t'as du zinc, tu vois.
Ok.
Et généralement, quand tu vois les populations, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avant, quand on tue un animal, qu'on le mangeait, on le mangeait entièrement. On curait les os, on bouffait la peau, on bouffait tout, quoi. On bouffait tous les abats. Les abats, c'est quand même les parties où il y a le plus de vitamines et minéraux, tu vois. Aujourd'hui, on fait plus ça. Nous, c'est le blanc de poulet ou l'escalope de dinde ou le steak de bœuf, tu vois. Et puis tout le reste, ben, la gélatine, on l'a pas, donc on n'a pas de collagène. Les abats, on n'en mange pas parce qu'on n'aime pas ça. On cure pas les os. Enfin bref, au final, on se retrouve avec, avec finalement juste une partie musculaire qui est assez pauvre en, qui est finalement assez pauvre en vitamines et minéraux, toi, ou en collagène. Donc du coup, on se crée des carences sans faire exprès, entre guillemets, tu vois.
Donc, ok, voilà. C'est bon, je vois. Donc magnésium, zinc, enfin virilis.
Alors, que magnésium, virilis et collagène. Ça, c'est vraiment les trucs que je prends en permanence.
Et après, j'avais une petite question. Pourquoi sur votre pot de collagène, il y a marqué collagène et pas collagène, tout court
En fait, c'est juste.
Il y a un trait d'union.
Hein?
Il y a un trait d'union entre le.
Oui,
le
en fait, c'est juste parce qu'en fait, la marque du truc c'était Col Instant. Et on a voulu faire un truc pareil, collagène, ouais. On a voulu faire un petit jeu de mots, en fait. Il n'y a rien de...
Ok, voilà. C'est pas une molécule spécifique.
Quoi. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un jeu de mots, enfin, on s'en fout.
Donc, d'autres choses ou pas?
C'est essentiellement ça. En ce moment, je teste les oméga 7, tu vois. Voilà.
C'est quoi ça?
C'est, alors pareil, les oméga 7, en fait, on retrouve assez peu dans l'alimentation. On en trouve beaucoup dans les noix de macadamia. Mais donc, à moins de bouffer des macadamia tous les jours. Et en fait, pourquoi oméga 7? Parce que c'est par rapport aux chaînes. Tu vois, oméga 3, il y en a 3. Ben là, il y en a 7. C'est comme ça. Et voilà. Et ça, c'est assez intéressant pour la santé, système cardiovasculaire, etc. Et voilà, je teste pas mal donc les oméga 7 en ce moment. Voilà. Après, si je suis vraiment dans une phase, peut-être plus la créatine, ça. Mais là, en ce moment, tu vois, je fais pas. Franchement, c'est en fonction de mes objectifs ou de mes envies, tu vois.
Voilà. Ok, bon, effectivement, oméga 7, oui, c'est en fonction du nombre de chaînes carbonées là, mais alors il y a le 3, il y a le 6, il y a le 9 qui sont les plus connus, y a trop, on est déséquilibré entre les 3 et les 6.
Il y a le 7 que.
9, c'est beaucoup les huiles d'olive.
Ouais, c'est ça. Mm.
Donc, ok.
Voilà.
Est-ce que tu as peur de vieillir?
Ouais, un peu, ouais, quand même, un petit peu.
C'est quoi qui te fait peur là-dedans?
Un petit peu, ouais, parce que tu sais, je me sens tellement jeune dans ma tête que j'ai peur qu'il y ait un décalage après, tu sais, avec mon corps, tu vois, c'est ouf. Mais en fait, je me sens, mais moi, je suis un vrai gamin, quoi. C'est-à-dire que je te dis, j'aime tout le temps rigoler, j'aime tout le temps bouger, j'aime voyager, j'aime, enfin, tu vois, je suis vraiment truc. Et d'ailleurs, la plupart de mes amis sont jeunes, tu vois. Mais ouais, j'ai vraiment une âme d'enfant, tu vois. Enfin, d'enfant, je me comprends quand je dis ça, tu vois, mais je me réjouis toujours de tout. Enfin, tu vois, donc j'évite vraiment d'être le vieux con, tu vois. J'adore apprendre, j'adore, tu vois, voilà. Donc ouais, un petit peu quand même. Physiquement, ouais, un petit peu. Donc je m'entretiens, tu vois.
Mais à part ça, est-ce que tu sens, toi, dans ton corps, qu'il y a des choses que tu peux plus faire de la même manière qu'avant, ou alors tu restes toujours aussi physiquement apte à tout faire ce que tu faisais quand tu avais 20 ans?
Bah, c'est sûr, je m'entraîne plus lourd comme je faisais avant, avec des gros soulevés de terre, des gros squats, tu vois. C'est vrai que ça, je fais plus, tu vois. Et puis je sens que mes articulations, pas sûr qu'elles supporteraient, tu vois. J'ai la chance de m'être jamais rien déchiré, tu vois. Et grâce justement à la méthodologie de Doug Brignoles, ça me permet, moi, de continuer à m'entraîner à fond et à entraîner vraiment que mes muscles et à limiter l'impact sur mes articulations, mes tendons et tout ça, tu vois. Donc moi, ça me convient très bien. Je suis pas épuisé. Tu sais, avant, je sortais de mes entraînements, j'étais épuisé parce que ça me nervait, on prenait un coup. Maintenant, je sors de mes entraînements, je suis frais comme un gardon, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Je suis pas épuisé après mes entraînements, tu vois. Je suis bien, tu vois. Et je trouve ça génial, tu vois. Alors, c'est dû à mon âge, hein, sûrement. Mais c'est vrai que quand t'es plus jeune, t'as la niaque, t'as envie de tout donner, t'as envie de défoncer les trucs, tu vois. Mais je suis plus dans cette optique-là du tout. J'aime m'entraîner, j'aime forcer. Mais vraiment d'une matière intelligente. Voilà.
Ok. Si on revenait 10 ans en arrière, lorsque t'as monté ta première société, que tu as voulu te lancer donc dans peut-être la boutique, ou d'abord, ouais, que t'as monté la boutique, c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là?
Qu'il faut jamais lâcher, en fait. Parce qu'on a toujours des doutes, et je pense qu'il faut pas lâcher, qu'il faut, comme j'ai dit au début, qu'il fallait toujours être dans l'action des choses. Quand tu as un problème, au lieu de te focaliser sur le problème, trouve la solution. Voilà, focalise-toi sur la solution. Le problème, il est là, on peut plus rien y faire. Donc, ça va faire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je les vois, les gens, ils sont là, ah, le problème, le problème, le problème. Et en fait, il se focalise pas sur la solution. Le problème, il est là, on peut plus rien y faire. Donc, maintenant, OK, t'as chalé à bon coup. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver une solution? Quelle est la démarche psychologique que tu vas mettre pour pallier à ça? Pour trouver la solution pour pallier à ça, pour arranger les choses ou pour diminuer la souffrance induite par le problème, ou je sais pas, mais voilà.
Ok, très bien, je note. Est-ce qu'il y a t'as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours?
J'en ai plusieurs, ouais. Donc j'ai eu David Lefrançois, qui est mon mentor en neurosciences. J'ai adoré Franck Nicolas, que j'ai suivi beaucoup, qui est canadien.
Ben, en fait, il est français, mais il est expatrié à Montréal.
Ouais, on l'aime ou on l'aime pas, parce que c'est vraiment du leadership et que le mec, il rentre un peu dedans et c'est un peu, parfois un peu too much à l'américaine, tu vois. Donc on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je me retrouve beaucoup en lui parce que c'est vraiment un gros leader et qu'il rentre un peu dans l'art et que moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette mentalité, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc voilà. Après, bon, t'as Napoléon Hill qui est un peu le père un peu de tout ça, tu vois. Voilà. Et puis après, t'as des personnes de mon quotidien qui ne sont pas connues, qui m'inspirent beaucoup, dont un ami à moi qui s'appelle Booba, qui est africain, qui est arrivé en France à 18 ans, qui ne sait pas parler la langue et qui est venu avec rien et qui aujourd'hui est un des meilleurs coachs à Monaco, qui travaille au yacht club de Monaco, qui se fait 10 000 euros par mois et voilà, tu vois.
Donc, en lui, plus d'être un grand rappeur. Assez...
Ouais, non, c'est pas le rappeur. Ben, lui, il m'inspire beaucoup parce qu'il est parti de rien. Mais quand je dis de rien, vraiment de rien. Dans un petit village en Afrique où il allait chercher l'eau au puits avec un seau d'eau, tu vois. Et le mec aujourd'hui, il est incroyable. Et lui, il a un mindset de psychopathe. Et lui, il m'a beaucoup aidé quand j'ai traversé des difficultés au début avec ma société. Et quand j'étais en pleine ascension et en pleine réussite, où tout le monde me essayait de me défoncer, en fait. Et il m'a dit, c'est normal, ça fait partie de la réussite. La réussite est égale à rejet. Et il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, c'est normal, tu réussis. Donc les gens sont frustrés de ça. Et puis voilà. Et j'ai Alfie, qui est un de mes... J'aime pas dire employé parce que c'est comme un frère et c'est plus un collaborateur avec moi, qui gère une salle de sport à Roquebrune Cap-Martin, qui est pareil, qui est un Philippin extraordinaire aussi, qui, pareil. J'ai ma maman qui a eu un cancer et qui a surmonté ça, qui a toujours la banane. C'est aussi une source d'inspiration. Il y a ma grand-mère qui a 94 ans, qui a toujours le smile, qui dit que tu dois toujours garder la tête haute, quoi qu'il arrive, qui a connu la guerre et tout. Donc pareil, qui pour moi une source d'inspiration. Enfin, tu vois, tu as des gens qui sont autour de moi, qui m'inspirent au quotidien. Et voilà. Et je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive parce que je sais pas si vous avez beaucoup de SDF ou pas, truc, mais moi, quand je vois un SDF dans la rue, je me dis, mais la chance que j'ai de pas être à sa place, en fait, tu vois. Et ben ça m'en met toujours tout de suite les pieds sur terre en me disant, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai le droit que d'avancer. Parce que moi, j'ai cette chance-là d'avoir la possibilité de faire ça. Voilà, je suis pas à la rue. Donc, j'évite de me plaindre. Voilà, j'ai de la chance.
Parfait. Voilà. T'as un livre à recommander ? Que tu m'as parlé de Napoléon Hill qui avait.
Ouais, bah oui, vous tapez Napoléon Hill, vous avez 300 milliards de livres. Attends, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui sonne. Attends.
Vas-y. Je vais tenir en haleine les auditeurs comme je fais souvent. En plus, c'est bien parce que vous ne pouvez pas voir là. Il est à la porte. Je suis en plein enregistrement. C'est mal, c'est pas cadré. C'est pas cadré pour que vous puissiez le voir. Les dernières petites questions que je vais poser à Christophe pour terminer, de toute façon, je vais profiter de ce petit moment pour vous proposer de mettre une petite note sur Apple Podcast au podcast biomécanique si ça vous a plu. Le petit commentaire aussi, partagez-moi, là, donnez-moi vos retours, vos feedbacks par rapport à ces épisodes. S'il y en a qui veulent me le faire directement en privé, utilisez contact@biomecaniquepodcast.com pour directement m'envoyer un mail. Et voilà, Christophe est revenu. On a bientôt terminé. Hein. Je te pose une dernière petite question.
Pas de soucis, pas de soucis.
Que je pose à mes invités. Je l'aime bien. Alors, je te l'ai posé tout à l'heure, mais un livre qui t'a marqué, toi. J'aime bien donner des références comme ça. J'aime bien en avoir pour moi-même aussi. Hein. Que ce soit dans le sujet de l'entraînement ou pas. Et si tu as envie de mentionner les bouquins que tu as écrits, fais-toi plaisir aussi. Hein.
C'est Les Secrets de la Sèche avec Will Johnson. Ça, c'est un vrai best-seller. On essaie vraiment de tout faire pour truc. On a sorti après Les Secrets de la Prise du Muscle aussi. On reprend beaucoup de choses de Doug Brignoles d'ailleurs. Ouais. Will Johnson, tu le connais, Will Johnson, ou pas?
Ah oui, bien sûr, il est venu sur le podcast il y a quelques mois. Génial. On a fait un super épisode avec lui.
C'est quelqu'un d'extraordinaire que j'affectionne vraiment particulièrement. Et ouais, voilà. Après, en livre, tu as les accords de Toltec qui sont les quatre accords de Toltec qui sont géniaux.
Ouais, ouais.
Il y a la confiance illimitée aussi de Franck Nicolas qui est intéressant. Après, il y en a plein hein, dans tous les domaines.
Je note ça.
Ouais.
Parfait. Où c'est qu'on te retrouve, Christophe? On a parlé de ton Instagram où il y avait des posts qui étaient assez marrants avec des citations de
Rocco. Je suis beaucoup sur Instagram. Tapez Christophe Bonnefond et voilà, vous allez rigoler avec moi. Je suis beaucoup sur Instagram, un peu sur Facebook.
YouTube aussi.
Et à mon YouTube, pareil, Christophe Bonnefond. Voilà.
Les vidéos sur YouTube, c'est un petit peu aléatoire. Des fois, tu postes, des fois, tu postes pas. Des fois, il y a des podcasts.
Ouais,
il y a pas
bon, j'essaie d'être régulier, mais j'ai une vie tellement à 100 à l'heure que des fois, on oublie des fois. Mais j'essaie d'être régulier, d'avoir au moins une fois par semaine une vidéo qui sort. Mais bon, c'est pas toujours régulier.
Ah, on a une petite coupure. Je pense que Christophe va revenir assez rapidement. Bon, ben voilà. Ben, je vais en profiter pour... qu'est-ce que je disais? Je disais les notes, la note sur Apple Podcast hein, ou même sur la plateforme de votre choix. Allez-y, mettez une note, mettez un commentaire, faites-moi vos retours. Inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi, qui est la newsletter du podcast que j'essaie d'envoyer une fois par mois. Enfin, que je fais là, en début de chaque mois. J'envoie la newsletter où je reviens sur un sujet de santé, je reviens sur un sujet un petit peu de soit une blessure, soit une compréhension de la mécanique, de l'anatomie, de la physiologie. La dernière fois, on avait parlé d'un muscle en particulier dans l'épaule, on avait parlé de problèmes inflammatoires, on avait parlé de respiration, diaphragme, de home gym. Enfin, j'essaie à chaque fois de donner des petits conseils, des petites astuces d'ostéo que je suis spécialisé un petit peu dans le sport. Dans le sport, dans la mécanique du corps, essayer d'un petit peu mieux se comprendre pour optimiser soit ses entraînements, être mieux dans sa santé, être un peu plus au top. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que Christophe revienne? Je peux vous dire que vous allez retrouver tous les liens dont on a discuté aujourd'hui, enfin surtout les bouquins, dans la description. Donc n'hésitez pas à faire dérouler, cliquez, allez regarder un peu. J'essaierai de vous mettre des liens Amazon pour les livres. Également pour tous les réseaux sociaux de Christophe. Voilà, je pense que je vais arriver à bout là, de la façon dont je peux meubler avant qu'il revienne. Je pense qu'il a une petite coupure. Non, c'est bon, il est là. Il est retour. Ah, je me suis dit, est-ce que je vais devoir meubler pendant un moment? Est-ce qu'il va revenir ou il a eu un problème? Non, c'est bon, au dernier moment, il est là.
Problème internet.
Il m'a sauvé. Pas de problème. Mais tu vois.
Pour moi, on veut dire au revoir, quoi.
Ben oui, non, mais il faut dire au revoir à tout le monde. Bon, ben écoute, on a fait le tour. Je laisserai tous les liens, ça, je l'ai dit. Une dernière chose à rajouter?
Oui.
Un message à faire passer?
Non, ben, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Je kiffe les Canadiens et le Canada. Voilà, je le dis, c'est pas du lèche-botte, mais j'adore, je trouve que la mentalité là-bas est exceptionnelle et cette mentalité nous manque un peu ici en France, donc voilà, c'est un vrai plaisir, Jérôme, et puis voilà, j'espère que les éditeurs ça leur plaira aussi, et puis voilà.
Ouais, et ben qu'ils le fassent savoir si ça leur plaît. Je pense que ça a été sympa. Un épisode plus court qu'à l'accoutumée, mais pas si court, 1h30. Je pense qu'on en a pour notre argent, comme on dit. Même si non, ce podcast est gratuit. On a fait le tour. On te retrouve prochainement dans ton livre que tu vas sortir. Enfin, le livre que tu vas sortir avec.
Ouais, les anges ou démons.
Les anges ou démons, ça va être marrant. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Reste ici, Christophe, quitte pas de suite, je vais quitter l'enregistrement. Okay. Profitez bien, profitez de votre semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.